Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir à toutes celles et ceux qui passent sur ce live, et bonsoir à tout le monde, sauf aux députés qui n'ont pas voté contre la motion de censure. Voilà, j'ai le seum, ce n'est pas étonnant si vous suivez un peu mes lives actus du lundi matin par exemple, mais bon, j'y croyais pas trop, j'ai le seum quand même, on va se changer les idées, c'est pas grave. Bienvenue Fabrice Florent.
Merci, bah, merci Mimi de m'accueillir, c'est cool, je suis très heureux de faire ces lives avec toi pendant... 10 semaines.
Bah 11 semaines 11 à compter semaines. D'aujourd'hui, puisqu'on s'est dit, c'est 10 semaines, on va en rajouter une et faire un petit live pré-saison 4 de Succession. Est-ce que tu veux te représenter, te briefer un petit peu pour celles et ceux qui connaîtraient mon travail et pas le tien, ce qui est vraiment un choix de vie, mais on a peut-être, genre peut-être Nodus, oui. Il te connaît pas, tu vois.
Ah ouais, alors pour Nodus, je suis donc Fabrice, j'ai fondé ce média mademoiselle.com en 2005, que j'ai dirigé et animé
fait
pendant
grandir et voilà et mener avec talent
pendant moultes années jusqu'en 2020, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs pour les gens qui, j'espère que des gens ont fait le lien quoi,
on a travaillé ensemble, c'était mon patron, il m'a donné mon premier CDI de ma vie et même mon premier CDD parce qu'avant j'avais juste fait des abricots et
ton
de l'intérim.
Premier stage non
ouais, pas. Hey, stage okay. De troisième librairie BD, tu connais. Manga gratuit tout le lycée, y a quoi.
Et depuis, en fait, je produis des podcasts d'interviews. Voilà, je c'est un truc où je fais parler des gens de plein de sujets.
Oui.
La paternité, la maternité, l'argent, le succès, la masculinité, en veux-tu, en voilà, il y en a pour tout le monde.
Tout à fait. Je t'ai fait une commande dans le chat, regarde.
Oh.
Point d'exclamation Fab. Non, oui, Fab alias Fabrice Florent, c'est un ami, c'est un mentor, c'est le fondateur de Mademoiselle et aussi un podcasteur de talent. Retrouvez ses bangers, ça va être un live all bangers all the time, histoire de daron, histoire de mec, histoire d'argent, encore histoire de succès, sur ton site et chaque dimanche avec Mimi dans le Film Club.
Je dab.
Puisque on anime un podcast ensemble avec Fab, on en a créé un ensemble chez Mademoiselle à l'époque, il s'appelait The Boys Club, qui est maintenant histoire de mec, un podcast sur les masculinités. Il est très bien, abonnez-vous. Et on a interviewé plein de gens intéressants, je trouve, et tu le mènes d'une main de maître depuis que tu l'as repris en solo. Et on a créé un deuxième podcast depuis qu'on est tous les deux indés qui s'appelle le Film Club, où on vous parle, comme ce soir finalement, de pop culture, de cinéma cette fois-ci. Le dernier épisode sorti, c'est avec Angast Nodus qui est sur le chat. On y parle de Tokyo Drift, Furious 3 Tokyo Drift, un podcast cinéphile.
Du cinéma hollywoodien.
Du cinéma. Et là, on a sorti hier la bande-annonce du prochain Film Club qui est, vous l'avez peut-être deviné par rapport à l'actualité cinéma, encore un film avec... très peu d'action et beaucoup... C'est un film d'auteur, je pense qu'on peut le dire.
Oui.
On fait John Wick 2, dimanche prochain dans le Film Club. C'est le meilleur John Wick. Jusqu'à preuve du contraire, hâte de voir le 4, car nous n'étions pas à l'avant-première avec les influenceurs et Keanu Reeves. Pas encore. John Wick 5, on y sera et on sera genre... John Wick 5, on fait l'interview de Keanu Reeves sur scène.
Sache
on fait un Film Club avec lui.
Que j'ai contacté Metropolitan en les engueulant.
Vous savez qui
en disant, on a fait plein d'OP avec
c'est
Mademoiselle... Avec Metropolitan Y.
Oh, une certaine Louise Petrouchka a rejoint le chat.
Coucou,
hello
loulou.
Loulou, bienvenue. Qui c'est qui a pas vu la fin de la saison 3, c'est moi. Louise.
Mais enfin,
alors on va en parler, mais on va se spoiler.
Hein.
Et c'est dommage de se faire spoiler la fin d'une saison de Succession qui est quand même connue pour ses fins de saison. qualitative. Et bonsoir Léa, qui joigne le chat aussi.
Loulou, mais pourquoi t'as pas... Déjà, pourquoi n'avoir pas regardé Succession en entier ? C'est un choix de vie, ça aussi.
Pourquoi, mais surtout comment ? J'ai envie de dire, c'est un peu comme manger un chips, tu vois, c'est pas possible. Ou un M&M, tu commences Succession. Là, on va en parler, mais je me suis refait l'intégralité de la saison 3 dans un temps qui est, ma foi, inquiétant. De type, peut'être 2 jours, c'est quand même 9 heures de vie, quoi. Je dis
en
juste
vrai,
coucou.
Ça va vite.
Coucou Loulou, merci de venir dire coucou. Est-ce que tu veux faire la pub de la chatte en feu dans le chat ? Car tu peux, c'est un peu le chat en feu.
Allez là !
Allez,
mais elle est blindée. Elle est blindée. C'est
ah oui, full. C'est vrai. Mais comme ça, les gens ils follow le compte parce que c'est sold out. La chatte en feu, c'est des super soirées. Hein. Et oui, c'est complet. Mais comme ça, tu le pitch et les gens ils vont follow le compte. Et après, comme ça, ils seront à la prochaine chatte en feu, comme moi peut-être, qui finirait par réussir à y aller. Mais je sais déjà que c'est trop cool. Coucou Chino, j'ai fait tout Game of Thrones en 10 jours. Respect.
What?
Toute la série.
Cette saison donc.
8 saisons.
8 saisons en 10
jours.
Ouais,
les dernières sont un peu plus courtes, mais c'est quand même long. Après, il me semble que c'était au moment où Chino n'avait pas d'emploi, ce qui aide aussi à avoir du temps, ayant actuellement un emploi plus souple. C'était plus simple de, enfin, un emploi, du coup, un travail d'indépendante.
Oui.
C'était plus simple de regarder tout Succession
très vite. C'est
une bonne
idée d'avoir trouvé un job, effectivement.
Oui. Alors, Louise nous dit, la chatte en feu, c'est une soirée sans photos ni vidéos. On écoute hip-hop, reggaeton, dancehall et autres genres affiliés et c'est super. Aussi, j'y mixe. Tout à fait. La chatte en feu, c'est trop bien. Ça a été créé par Louise Petrouchka et Camille Laurent, que vous connaissez peut-être aussi. Si vous avez suivi notamment le talent de dénicheur de talent de Fabrice Florent. C'est à Paris et c'est à peu près une fois par mois et demi. Louise, dis-moi si je me trompe. En tout cas, ça commence à être la 3e ou 4e et c'est trop cool. Et donc, pas de photos, pas de vidéos, mais des croquis faits de vous, du public de la soirée, pendant la soirée. Je trouve que c'est une idée très cool. Marty dit, hello, j'ai regardé que la première saison de Succession, mais tant pis pour le spoil, mais qui êtes-vous ? Genre, dans la vie, est-ce que vous mangez un demi-quignon de pain et après vous jetez la baguette ? Genre, on est où là ? Okay. Comment vous arrivez à vous arrêter ? Je ne sais pas. Ok, on est là pour parler de Succession, à l'occasion du retour de Succession pour la 4e saison qui commence ce dimanche 26 mars aux États-Unis, donc lundi 27 chez nous. Pour rappel, pour regarder Succession en France, il faut prendre le pass Warner sur Prime, donc il faut payer Amazon Prime, prendre en plus le pass Warner qui coûte 10 balles par mois, et qui vous donnera accès à un très large catalogue de séries déjà diffusées et de nouveautés, dont le catalogue HBO, dont Game of Thrones, House of the Dragon, etc., mais aussi toutes les saisons de Succession déjà diffusées, et la nouvelle, qui, on l'a appris assez récemment, au final, sera la dernière. C'était pas sûr, on se disait qu'ils avaient 1 à 2 saisons encore en termes d'intrigue, jusqu'où ils peuvent tirer sur la corde sans que ça soit justement trop tiré sur la corde, et ils ont confirmé il y a quelques semaines, il y a un petit mois maintenant, que la 4e sera la dernière. Donc on va, spoiler alerte, vous spoiler les 3 premières saisons de Succession. Ok, on va parler dans un premier temps plus largement de notre rapport à la série, où du coup on n'ira pas dans des points de détail du scénario. On vous refera au pire une petite spoiler alerte après, mais bon voilà, c'est un podcast de préparation à la saison 4. L'idée, c'est aussi de vous aider à vous remettre en tête où on en est, parce que je sais pas pour toi, mais pour moi c'était un peu, ça commençait à être un peu flou la saison 3, donc contente de l'avoir revue. Et avant qu'on se lance, j'ai une petite surprise, mais pour ça il faut qu'avec Fab on mette des écouteurs. Donc mets ça dans ton oreille gauche. Ouais. Je fais une petite manip. C'est un Samsung, je sais pas quoi. Galaxy Bud. Je crois que tu l'as mis à l'envers, mais ça devrait le faire quand même. Ça va pas durer très longtemps. Mais attention, gardez l'œil sur... Montez le son de votre côté. Gardez l'œil sur ce qui se passe. C'est bon ?
Ouais.
Ok. Il va se passer une dingue. 1, 2, 3.
Elle annonce enfin son EP.
Ah, et on aura pas notre mic pendant. Donc on peut s'enthousiasmer, mais les gens ne nous entendront pas. Ok. 1, 2, 3... Ah putain, pourquoi on l'entend pas ? Je sais pas pourquoi on l'entend pas. C'est pas grave, tu l'as déjà entendu. Bah tu peux enlever l'écouteur du coup. Hop.
Ah ok, donc les gens l'entendent, ce qui est en soi déjà...
Ce qui est plutôt plutôt la prio.
Attends, je l'ai mal mis je crois.
T'inquiète. Banger ou pas ?
Quel
banger,
talent.
Banger. C'est le nouveau générique des podcasts séries, du coup, en l'honneur de Succession. Il a été fait par Valentin Nortier, alias Curry Goes With Everything, et Curry, etc. Curry, il y a toujours Curry dans son pseudo, sur les diverses applis et réseaux sociaux. Et vous trouverez le lien de son travail et de son SoundCloud dans la description de tous mes podcasts séries, puisque c'est lui qui a fait... Mais générique de podcast série, il m'avait fait une super compo sur House of the Dragon avec le petit thème de Game of Thrones qui montait à la fin. Et là, j'étais là, en vrai, pour la dernière saison de Succession qui a un thème musical aussi iconique, ça mérite de mettre un peu de sous pour refaire le générique. Donc, ravi ! Voilà, c'était la petite surprise. Let's go succession. La MIF, j'ai préparé un conducteur et tout, on est hyper tight. Et il faut dire, pour l'anecdote, que je t'invite sur ces débriefs succession. Déjà parce que tu es très bon, je trouve, en débrief de série avec moi. T'en as fait même sur des séries comme House of the Dragon où t'avais moins d'affect que moi et ça, c'était un duo qui marchait très bien. On en avait fait aussi chez Mademoiselle. Et aussi parce que je pense que je te le dois bien, car c'est grâce à toi que je regarde Succession, mais grâce à toi, mais aussi à ta patience. Car tu m'as conseillé longtemps Succession, que toi, tu as découvert, je crois, saison 1, épisode 1.
Vraiment.
Et pendant au moins une saison, je t'ai dit, écoute Fabrice, je n'ai pas envie de regarder ta série sur des ultra riches, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas.
Des blancs ultra riches.
Oui, sur des blancs ultra riches qui sont malheureux d'être ultra riches et tout. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder autre chose. Je sais pas ce que je regardais à l'époque qui était cool, mais je vais regarder autre chose.
Sans doute un truc moins bien, mais bon.
Probablement un truc moins bien, puisque Succession est la meilleure série. Voilà. Comme vous le savez. Et je m'y suis mis à la fin de la saison 1. J'étais là, oh my god, all bangers all the time, dans mes veines, c'est trop bien. Donc j'ai fait un beau mea culpa auprès de Fabrizio et j'ai rejoint le club des évangélistes de Succession qui essaye de convertir tout le monde à cette série qui a eu, on va en parler, un succès croissant, quoi. Qui a commencé comme un diesel et qui a trouvé son public et son...
Tu sais, la dernière fois que tu m'as fait ce coup-là?
Non.
Ted Lasso?
Oui, mais oui, parce que je croyais que c'était une série sur le foot.
Voilà.
Ted Lasso, j'ai mis moins longtemps. Par contre, je tiens à dire que Marvelous Mrs. Maisel, j'ai essayé le pilote genre 3 fois.
Oui,
et vraiment, je rentre pas dedans. Okay. Mais I tried. Je vais remater l'épisode 1 de la saison 3. Ok, bisous loulou. Merci d'être passé et ravi de t'avoir convaincu. Rendez-vous pour la saison 4,
si
mardi
loulou.
Prochain.
Oui, t'as une semaine.
Ça va bien. Une semaine, je l'ai fait en 2 jours.
2 épisodes par soir. Easy. Facile.
Du coup, comment, c'est quoi comment tu présentes Succession aux gens? Parce que je trouve que c'est pas facile de, et ça, sans vouloir me dédouaner, ça explique un peu aussi pourquoi j'ai mis du temps à t'écouter. C'est pas hyper facile d'expliquer aux gens pourquoi c'est bien. Pourquoi c'est aussi bien.
Bah, alors, en plus, je crois que je te l'ai présenté très rapidement saison 1, donc il y avait beaucoup moins de, les personnages avaient été beaucoup moins creusés au début, mais en gros pour moi je le présente comme aujourd'hui en tout cas je le présente comme c'est en fait des gens qui se détestent, c'est une famille avec que des gens qui se détestent entre eux et en même temps tu peux pas faire autrement que de les aimer et tout en les détestant. Et aussi il y a, je crois, plein d'aspects en sous-texte qui sont hyper intéressants parce que ça parle beaucoup de notre société, finalement.
Oui, le monde
comme,
d'aujourd'hui.
Comme ils sont à la tête d'une sorte de mégalopole.
D'un empire médiatique.
Un empire énorme médiatique, mais pas que. Ça parle énormément de la société, de la façon dont on vit, nous, dans notre société, je trouve. Et ils sont un miroir aussi hyper intéressant.
La culture, quoi.
Exactement.
De la culture et de la société qui avance vite.
Et en fait, plus ça va, et plus je me dis, mais en fait, c'est avant tout une série familiale. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'anti-This Is Us, tu sais.
Ah ouais, c'est...
Voilà.
This Is Us, ils ont moins de thunes, ils ont aussi des traumas, mais ils se parlent, ils pleurent et ils se font des câlins. Et Succession, ils ont dit, non.
Bah, c'est le Némésis, en fait. Tu vois, pour moi, c'est vraiment l'anti.
C'est mieux écrit, quand même.
Oui. Mais
no shade to This Is Us, mais c'est un soap.
Alors,
là, c'est,
bon. Ceci dit, pour avoir parlé de This Is Us avec un ami à moi, Angelo, qu'on connaît, il m'a dit, en fait, pour moi, c'est les scénaristes sont des génies, les dialoguistes sont des génies parce que tout est fait. Enfin, je l'ai pas vu plus que ça, mais il m'a vraiment donné envie. Tout est fait pour que, en gros, les personnages ont du lien en permanence.
Ok.
Là où, en fait, et donc de l'amour, là où je trouve que, juste dans Succession, en fait, ils n'arrivent pas à se dire je t'aime, tu vois, et c'est
non,
ça qui
est
terrible.
Non, ils n'arrivent pas, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est pas des gens qui s'aiment. Je pense que c'est des gens qui s'aiment de la seule façon qu'ils savent s'aimer.
Bien sûr.
Et ils savent pas aimer. Mais tu vois, je pense que, entre Kendall et Roman, par exemple, il y a de l'amour.
Oui.
Mais ils savent pas se le dire. Et on sent ce lien, on sent qu'ils ont grandi ensemble, on sent qu'ils ont le même langage, qu'ils ont des moments où tu sens que tu crois qu'ils sont frères. Tu comprends que, oui, c'est des gens qui se connaissent depuis qu'ils sont nés.
Mais ce n'est pas de l'amour, entendons-nous.
Bah, c'est le seul dont ils sont capables.
Oui, c'est ça.
Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Ok, moi je résume This Is Us en disant que... je présente Succession en disant que c'est comme si on faisait une série que sur les Lannister, mais à notre époque.
Ah.
Donc les Lannister, la famille très riche mais très fucked up aussi de Game of Thrones, qui a aussi un bail compliqué avec un daron qui fait peser une chape de plomb comme ça sur ses enfants et qui a une idée de son héritage et de ce qu'il va laisser derrière lui, de sa succession, qui est très importante et qui est prêt... des fois à faire des politiques de terre brûlée totale pour soit protéger un de ses enfants, soit punir et donner une leçon à un de ses enfants. Mais je dis aussi que ça se passe voilà à notre époque dans le monde des médias et de la politique aussi puisque on est sur notamment dans la saison 3 il y a un épisode où ils vont littéralement choisir le prochain président des États-Unis dans c'est la plus grande détente.
Incroyable.
Alors c'est peut-être de l'ego de leur part mais je pense que c'est aussi très caustique sur la réalité du système médiatico-politique américain mais pas que. Je pense que c'est important de se rappeler que Succession c'est pas une série qui est faite par des Américains à la base. Il y a aussi pas mal de Britanniques dans le cast et enfin dans l'équipe de création et dans le cast puisque Brian Cox, l'acteur qui joue Logan est britannique et il joue il est écossais.
Il est écossais. Hein.
Et il joue un écossais d'ailleurs. Logan l'est aussi et du coup il y a ce regard un peu européen, un peu vieux continent sur une forme de nouveau riche un peu américain qui est très satirique. Qu'est-ce qui fait que t'as aimé Succession dès le début? Qu'est-ce qui t'a pris parce que en plus en revoyant la première saison, tu sens qu'ils mettent quelques épisodes à trouver leurs pattes. Les personnages, ils changent. Dans l'épisode 1, il y a pas mal de changements, notamment le personnage de Roman, le plus jeune frère, a une femme et des enfants qui disparaissent totalement. Et je pense que c'est pour le mieux. Donc voilà, on sent qu'ils n'étaient pas hyper, ils n'avaient pas tout au cordeau dès le début. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a plu immédiatement?
Alors pour moi, c'est déjà l'histoire de famille que je trouve géniale, le fait qu'il soit overreach, je sais pas si tu te souviens, mais il y a cette partie de baseball là à laquelle
épisode 1, oui, bien sûr.
Ils prennent des hélicoptères pour pouvoir juste aller jouer
au baseball. Et ils font ce truc où ils disent à un gamin si tu fais un home run ou je sais pas quoi, on te donne, alors je sais plus, je crois que c'est $1 million ou $100,000 le chèque que Roman lui propose.
Un million,
et comme
je crois.
Il réussit presque, mais pas. Roman il dit c'est dommage et il déchire le chèque devant lui. Ce qui te donne, en fait, dès le début, ils étaient là, ce ne sont pas des bonnes personnes.
Et t'as l'homme de main de Logan qui lui file la montre.
Oui.
Que Tom a offert
à Logan, ouais.
Qui en dit long aussi sur...
Vraiment, tout ce premier épisode qui du coup se passe aux 80 ans de Logan et on voit tout le monde qui essaye de lui faire un cadeau et on comprend que personne n'y arrivera parce que t'as déjà perdu, en fait. Si t'es pas la bonne personne, t'as déjà perdu. C'est une belle présentation de cette galerie de portraits qu'on va suivre pendant 3 ans, quoi.
Et, enfin, moi, ça m'a attrapé déjà par les dialogues, par les personnages qui sont très vite très marqués, je trouve, où tu vois tout de suite à qui tu vas avoir affaire, et en fait par cette intrigue qui est tout de suite lancée, où à la fin de l'épisode 1, Logan fait un AVC dans l'hélico là, où tu te dis ok, donc il y a tout de suite tu sens que leur univers va être chamboulé en l'espace d'une saison et ça donne tout de suite le là, je trouve. Donc ouais, moi, puis j'aime bien les séries, je crois vraiment que j'aime bien les séries avec des personnages très marqués et là il y a de quoi faire, quoi.
Et ils ont chacun en plus des scènes d'introduction assez fortes. Je me souviens que Kendall, sa scène d'intro, c'est lui qui rappe dans la bagnole en allant au boulot et tout.
Ah ouais.
Et en fait ça commence, on est dans sa tête, on entend sa musique et du coup il croit qu'il a du flow, quoi. Et après, ça coupe et on n'entend plus la musique et on voit juste un mec blanc un peu gênant avec des cernes qui s'ambiance en se prenant pour un gangster dans sa voiture avec chauffeur. On est là, ah non, c'est un tocard. Et c'est un peu un tocard. Il y a Lulu Broto sur le chat qui dit coucou Fab Flo en caps lock.
Salut Lulu Broto.
Coucou Lulu Broto et merci pour le follow. Moi, je pense que ce qui m'a plu tout de suite, c'est les dialogues. Je trouve que, alors, c'est un peu une écriture que je qualifierais d'écriture de connard, dans le sens où il y a vraiment énormément déjà de jargon technico-business, politico-médiatique. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Et j'avoue, moi, je google pas tout. Genre, le merger, le proxy vote et tout. Je suis là. En fait, je vais comprendre aux réactions des personnages, qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pas exactement. Je comprends les grandes lignes, mais voilà. Mais il y a plein de choses que je comprends parce que j'ai bossé dans les médias, parce que j'aime bien les réseaux sociaux, parce que je suis sur Twitter, je suis dans une certaine forme de trentenaire branché. Et encore, je suis quand même une petite meuf qui vit à Paris, je suis pas dans les soirées cool de New York. Donc je dis que c'est un peu une écriture de connard parce qu'elle peut être excluante.
Ouais.
Mais il y a un côté incisif dans les dialogues, tout tombe juste. Il y a régulièrement des phrases où tu les entends et tu te dis mais qui écrit ça? Littéralement, qui a cette idée d'écrire cette suite de mots qui n'a jamais été mise à la suite dans la langue anglaise du monde? Je sais pas, toi tu regardes sous-titré en français?
Oui, je regarde sous-titré en français. Et
ça marche parce que il y a des trucs. Moi, je regarde en anglais, sous-titré en anglais.
Et en fait,
je me dis qu'il y a des trucs qui doivent être.
Non, bien sûr, c'est intraduisible. Il y a plein de trucs qui sont intraduisibles. Il y a des trucs qui sont mal traduits, mais j'imagine à quel point c'est difficile de traduire ça, surtout dans le. Enfin, comme tu dis, en fait, c'est du jargon, quoi, limite. Donc, et c'est du jargon, c'est des insultes hyper tight où vraiment ils vont chercher la bonne petite insulte mal. Et il y a aussi un truc, tu vois, qui me plaît beaucoup. Moi, c'est à quel point. Même s'ils sont tous malveillants et violents entre eux, etc., en fait, ils sont tous brillants.
Ouaf.
Oui et non, je veux dire, il y en a aucun qui a une carrière. Tu vois, genre Shiv, je suis pas sûr que ce soit une conseillère politique de fou. Roman, il a 2-3 bonnes idées par saison, mais
alors ils sont brillants dans le sens où ils sont capables, juste, ils sont brillants dans la capacité à se clasher la gueule.
Ah oui, dans la verve.
Oui,
ah oui. Bah oui, 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 là on est en.
Oui, non, je parle pas de brillant.
À voix haute, le club de débat là, c'est vraiment, oui, oui, c'est.
C'est, ils ont toujours la bonne répartie, quoi.
Oui, ils sont jamais, ils bafouillent jamais, ils sont jamais en mode. C'est toi qui non c'est pas ça que je voulais dire, enfin oui c'est quand même bien écrit, très bien joué évidemment. On l'a dit, c'est une série qui a mis un peu de temps à trouver son succès, qui a eu un voilà un succès de niche pour sa saison 1. Bon, ça reste une grosse production HBO qui passait le dimanche soir hein. Donc toute proportion gardée, on n'est pas non plus sur une petite pépite méconnue, mais c'était pas Last of Us sur sa saison 1, c'était pas Breaking Bad, c'était voilà, ça a mis plus de temps la mayonnaise à prendre. Il y a eu un vrai succès critique, je pense, qui a eu dans ma tête, qui était pas mal temporalisé autour de la performance de Jeremy Strong en Kendall dans une saison 2 qui est assez magistrale et une fin de saison 1 qui l'est aussi. Et du coup, dans un focus sur les acteurs, et tiens, elle est vraiment très bien actée cette série. Et là, ça commence à être grand public. Et en même temps, j'avoue, en France, je sais pas du tout qui regarde Succession, peut-être. Je sais pas combien vous êtes, peut-être vous êtes 12 sur le chat actuellement, peut-être vous êtes 4, peut-être vous êtes là par politesse, mais vous regardez pas. Je vous encourage à regarder. Qu'est-ce qui fait que ça a pas pris tout de suite pour toi ?
En France, c'est que...
Bah, même, en vrai, même aux États-Unis, ça a pas, tu vois. C'était pas The Last of Us, même aux États-Unis, on va dire. Après, bien sûr, c'est pas une adaptation d'un jeu vidéo très connu, mais...
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, pour moi, c'est une série, qui, comme tu le dis, en fait, c'est une série dans laquelle il faut rentrer. C'est pas une série, En fait, tu vois, tu dis Breaking Bad, ça a démarré tout de suite, mais non, Breaking Bad, ça a démarré vraiment très lentement aux US. Et
ah ouais,
Breaking Bad, ça a commencé à...
Le succès est venu... Après, c'était aussi sur une chaîne moins chère que HBO, quoi.
C'est arrivé saison 2-3, quoi, tu vois, le succès de Breaking Bad, je crois, aux US. Mais parce qu'en fait, c'est des anti-héros, t'as pas envie de les suivre, ils sont horribles, en fait. Comment tu fais pour aimer des gens comme ça ? C'est vraiment...
Bah on va en parler parce qu'on
ça, je trouve ça trop bien écrit.
3 saisons et bientôt 4. Ouais. En tout cas, on les aime assez pour les regarder et pour. On parlera aussi de nos espoirs et de nos attentes pour espérer qu'ils s'en sortent quand même pour une partie d'entre eux, quoi. Ok, on va vous faire le récap de Succession saison par saison. J'ai écrit un petit résumé qui va être très confus pour les gens qui n'ont pas vu Succession, je pense, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans chaque saison. Du coup, et après, on parlera de du coup dans cette saison, c'était quoi nos moments forts et qu'est-ce qui fait que cette saison, comment elle s'inscrit dans l'œuvre qu'est Succession. Avant ça, petit topo rapide. Donc, Succession, c'est l'histoire de la famille Roy, qui est menée par un patriarche, Logan Roy. La série s'ouvre sur ses 80 ans. Il est à la tête d'un empire des médias et du divertissement. Ils ont des parcs à thème, des croisières, des choses comme ça. Mais surtout, des grosses chaînes de télé républicaines, très Fox News, on va dire, dans l'idée. Et c'est un mec qui s'est fait tout seul. Il est pas né dans ce monde-là, il a construit son empire. Il a 4 enfants, un fils aîné Connor d'un premier mariage, dont il s'en fout un peu, qui fait sa vie. Et ses 3 enfants qui forment le cœur de l'aventure Succession, qui sont Kendall, Chauvin, ça va être compliqué pour moi de prononcer Chauvin, désolé à l'intégralité de l'Écosse, et Roman, qui sont les potentiels successeurs de Logan à la tête de PDG de la compagnie, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de succession. Mais bien sûr, légitimité en tant que PDG veut aussi dire que papa les a préférés, et que c'est l'amour, le seul amour qu'il leur donne, puisque Logan est un papa très toxique. Et voilà, ça fait 3 saisons que Logan est pas en forme, mais qu'il est toujours là, et que, enfin pas en forme, il a 80 ans, et que ses enfants se tirent la bourre à savoir qui papa aime le plus. Saison 1. Kendall, le fils aîné du trio Kendall, Chauvin, Roman, se rend compte que son père ne l'annonce pas comme PDG pour ses 80 ans. Logan Roy, à la tête de l'empire des médias et du divertissement Waystar Royco, manque perdre la vie dans une attaque. Pendant qu'il se remet, Kendall se rend compte que l'entreprise est lourdement endettée et fait entrer un certain Stewie dans le board pour sauver la boîte. Une fois remis, Logan roule sur l'ego de son fils comme d'habitude, pendant que Tom, le futur mari de Chauvin, la fille de la fratrie, découvre que la division croisière de Waystar Royco cache de lourds secrets. À base de MeToo, balance ton porc, cover-up de meurtre, exploitation de personnes immigrées et tout. Kendall manque de renverser son père, mais se plante à cause des bouchons et retombe dans la drogue, like you do. Au mariage de sa sœur, alors qu'il est à ça de nouveau renverser son père, il cause la mort d'un jeune serveur qu'il lui avait demandé de l'emmener acheter de la drogue, et retombe donc dans les griffes de Logan, qui est au courant du meurtre. Mentionnons également cousin Greg, monsieur tout le monde, qui intègre la famille et développe une étrange relation avec Tom, tout en apprenant les ficelles de cet univers de requins, puisqu'il détruit les preuves des méfaits commis pendant les croisières. Enfin, la plupart des preuves, puisqu'il a quand même la sagesse d'esprit de s'en mettre de côté. Ça peut servir, spoiler, ça va servir. Mentionnons aussi Marcia, la compagne de Logan, aussi digne qu'inquiétante, et Jerry, la best meuf, je ne veux aucun débat, qui est la chef du service juridique de Waystar Royco et une des plus proches bras droits de Logan, qui en a quelques-uns, ce qui ne l'empêche pas de se faire maltraiter aussi régulièrement au fil de ces merveilleuses saisons de succession. C'est quoi ton avis sur cette saison 1? Comment tu la résumes? Comment tu la regardes aussi avec le recul? Et si tu dois en sortir un épisode ou quelques moments forts, qu'est-ce qui te vient quand tu penses succession saison 1?
Pour moi, c'est vraiment la bagarre entre Kendall, le fils aîné, et Logan. Comme tu dis, en fait, on a l'impression que Logan l'a vraiment coaché pendant... Je sais pas, j'imagine avant que ça commence pendant un temps indéfini, tu vois,
oui,
pour qu'ils finissent par
la
devenir
la saison commence avec
PDG.
Kendall qui est persuadé que l'annonce des 80 ans de Logan, ça va être « je me retire et mon fils prend la suite » parce que c'est comme ça que c'est prévu. C'est
et
ce
ça
à
a l'air
ça
d'être
tout le
prévu
monde.
Entre eux. Enfin, ça a l'air d'être... Voilà.
Et... Il a bossé pendant des années à Shanghai et tout pour se préparer. Enfin, il a fait... Alors, tout népotisme inclus, parce oui. que c'est quand même le fils du patron, mais il a bossé un petit peu, quoi, pour faire ça.
Et on comprend pas trop pourquoi... Logan change d'avis, sans doute la peur de la mort, parce qu'en fait, à mon avis, il n'y a que ça qui est derrière tout ça, ce mec.
Et le plaisir de mettre le seum à son fils, je pense, tu vois. Je pense qu'à chaque fois, il est là, c'est toujours, tu vois, c'est comme un bon royal cheese. C'est pas bon pour toi, mais ça fait kiffer un peu.
C'est clair. Et donc ouais, pour moi, vraiment, cette saison 1, c'est vraiment ça, c'est marqué par la bataille entre... Kendall et Logan, et effectivement Kendall s'arme à plusieurs reprises pour vraiment faire en sorte de réussir à pousser son père à la retraite et juste aller faire qu'il aille faire dodo, quoi, tu vois, qu'il aille se reposer. Et à chaque fois, le destin, peut-être aussi le fait qu'il soit un peu mal préparé, le fait aussi que en fait Logan est un tueur, et en fait on le verra un peu plus tard, quand ils ont cette discussion avec Tom qui est complètement dingue, où il dit en fait entre Kendall et Tom, où Tom lui dit en fait Kendall ne s'est jamais fait niquer. Logan ne s'est jamais fait niquer.
J'ai jamais vu Logan se faire ken.
Et en fait, j'ai l'impression que là, on va repartir pour le même cirque. Et effectivement, en fait, c'est exactement ça. Et pour moi aussi, on commence à comprendre en même temps que Logan est en train de prendre petit à petit de l'emprise sur son fils et en fait de juste le foutre plus bas que terre, qu'en fait Kendall a vraiment une santé mentale extrêmement fragile et que le mec va pas bien, quoi.
Oui, parce que c'est vrai que dans cette saison 1, au début on le découvre comme, alors père qu'on imagine, qu'on comprend assez vite séparé, mais voilà, il a eu une ex-femme, il a des enfants qu'on voit un peu plus dans la saison 1 que par la suite. Il a un bon job dans la boîte de son père. Alors effectivement, Steele Marty dans le chat rappelle, c'est pas parce que Ken s'en sortait pas avec le rachat de Volter. Alors tout à fait, la saison 1 s'ouvre sur Kendall qui rachète Volter, qui est une boîte, un média web un peu à la BuzzFeed, un peu à la Vulture, voilà, un peu cool. Alors que son père, voilà, il fait Fox News, quoi. Il est plus à l'ancienne comme mec. Et il maîtrise pas très bien ce rachat, il le rachète trop cher parce que Kendall, il y croit vraiment beaucoup. Mais pour moi, c'est pas la raison pour laquelle Logan lui donne pas les clés, c'est l'excuse. Ça aurait été autre chose si c'était pas ça. Il lui aurait dit, je sais pas, t'as respiré trop fort ce matin ou quoi, tu vois, il aurait trouvé un truc, parce qu'il veut pas, fondamentalement, comme tu dis. Il y a aussi la peur de la mort, je pense qu'il sait pas quoi faire de lui-même, Logan, et...
Non, mais la peur du vide, quoi.
Oui,
c'est
voilà,
incroyable.
C'est qui il est s'il est pas le chef de tout ça, je pense qu'il le sait pas et qu'il mourra, alors on en parlera, est-ce qu'il va mourir dans la saison 4, on ne sait pas, hein, pas de spoiler là-dessus. Mais s'il doit mourir, il mourra à son poste, quoi. Clairement, le gars, lui, il se bat pas pour la réforme des retraites, il s'en bat s'il veut pas, il veut pas être à la retraite. Est-ce que t'as des... Oui, alors, pour cette saison 1, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment l'histoire de Kendall et Logan, au point où j'ai limite un peu du mal à me rappeler de moments de Chauvin et Roman dans cette saison 1. Bon, bien sûr, ça se finit avec le mariage de Shiv, qui a du coup toute cette storyline dans la saison 1 où elle est conseillère politique pour un candidat démocrate, donc plutôt à gauche. Donc elle, c'est celle qui a l'air de s'être le plus émancipée de la fratrie, puisqu'elle a un job qui est pas dans la boîte de son père, elle va bientôt se marier, et puis elle bosse pour le camp idéologique adverse. Et elle a plutôt son truc de, elle va se marier avec Tom, qui est, on comprend qu'il vient de la classe supérieure, mais qu'il est pas du tout de ce monde d'ultra riche. Donc pour lui, il est là, il est en mode, oh my god. Et je pense qu'il se sent pas du tout à égalité avec ces gens. Et elle est plutôt dans un truc, elle lui demande une relation libre. Lui, il est là, ah. Bah, en fait, parce qu'elle lui dit le jour du mariage. Elle lui dit, au fait, j'ai une relation libre. Il est là, ah. Je t'aime. Elle est là, cool, moi aussi, du coup, on va niquer d'autres gens. Il fait, I guess. Et voilà. En fait, on sait maintenant, en arrivant à la saison 4, à quel point les graines de la discorde entre Shiv et Tom vont être importantes pour la suite. Mais la première fois qu'on regarde la saison 1, on est là, ok, bon bah là, des trucs de couple. Roman, ça a l'air d'être un peu, un mec chelou quoi, mais il a pas trop d'intrigue.
On comprend assez vite que les trois se détestent en fait, et que Logan a mis en place une... une dynamique dans sa famille assez simple qui est, en fait, il passe son temps à en choisir un pour les montrer contre les deux autres.
Oui.
Et il tourne, en fait, en permanence. Et notamment, il y a un moment, dans le tout premier épisode, où vraiment j'ai tilté, je me souviens très bien sur le moment où je me suis dit, putain, c'est étonnant la façon dont ils se parlent. Je l'ai revu après, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est le moment charnière pour moi où ils se voient tous les trois. Et ils disent,
donc les trois enfants?
Les trois enfants, pendant la fameuse partie de baseball, là, et où ils se disent, en fait, on pourrait se mettre à trois et faire en sorte de renverser le daron, et en fait, ça serait réglé. Et ça dure une demi-seconde avant qu'il y en ait un qui dise, non, mais en fait, toi, tu vas me la faire à l'envers. Et puis voilà, c'était réglé.
Ils ont aucune confiance les uns dans les autres, et c'est entretenu par le fait que leur propre père leur fait des coups dans le dos en permanence. Donc, comment tu peux avoir confiance? Et on verra, alors la saison 3, que pas que leur père, leur mère aussi leur fait une belle crasse, un bon on a fait le même bruit. Un bon sale coup. Coucou Calixa, ça fait longtemps, ça fait plaisir de venir sur les lives. Hello. Jamais vu Succession, commencer par la saison 4 ou tout binger. Vraiment tout binger, quitte à prendre un ou deux épisodes de retard sur la saison 4 et rattraper après, vraiment tout binger, parce que déjà tu vas être largué de fou. Il y a pas mal de persos et pas mal d'intrigues à boucler en une saison. Et aussi parce que c'est un plaisir quoi, c'est comme pas manger la pizza et manger que la croûte, c'est même si c'est la
comme
meilleure
comme commencer
croûte.
Un album au track 9.
Ouais, c'est un chemin. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, et ça va être un voyage mouvementé qui va te faire passer par des palettes d'émotions inédites en intensité de colère, de haine, mais aussi d'empathie parce que on est en empathie aussi avec ces personnages aussi fucked up soient-ils. Ça va être très très bien. Enjoy Succession et rendez-vous pour les live débriefs de la saison 4. Au pire, tu nous rattrapes pour le final. On va être là pendant 10 semaines. Ça va le faire. Est-ce que t'as des moments phares de cette saison 1 qui te reviennent en tête? Donc oui, on disait c'est pas mal l'histoire de Kendall et Logan, et c'est important qu'on comprenne cette opposition pour ensuite pouvoir développer dans les saisons d'après les deux autres enfants, principalement. Plus que Connor. Désolé, Connor, c'est le premier pancake. C'est toujours tellement triste, mais quand il lui dit « You're the first pancake », je suis là « Non, c'est la première crêpe ». Parce qu'en plus, c'est un peu un... Tu vois, c'est quand même une famille hyper patriarcale. Tu pourrais dire « C'est le fils aîné, il est plus âgé. On pourrait être dans une dynamique bizarre où il exige du respect, mais pas du tout. Personne le respecte. Bref. Donc, il fallait qu'on pose la dynamique Kendall-Logan dans cette saison 1, qui est marquée par ça. Et comme tu le dis, par la rapide réalisation que « Oh, waouh !» Ils sont tous cassés, ils se parlent hyper mal, et c'est la faute de leur daron, très clairement. Est-ce que ça va être ça, la série? Eh ben, oui, ça va être ça, la série, parce que tant que Logan meurt pas, on va continuer à tourner en rond en essayant d'attraper sa queue. Est-ce que t'as des moments phares qui te viennent de cette saison?
Alors moi, il y avait un moment qui m'avait marqué, mais je sais plus si c'est dans la saison 1, c'est ce moment où Roman se colle à son bureau, et tu sais qu'il fait semblant de travailler, il ouvre ses mails, et en fait, il dit « Oh là là !» Et en fait, il finit par aller se branler...
Oui, à la fenêtre de son gratte-ciel... Et très House of the Dragon énergie,
exactement. Et je me suis dit waouh, c'est vraiment, ça prouve tout de suite un peu la fuckerie du gars quoi, tu vois, qui décide. En fait, il y a aussi ce truc, tu vois, où je trouve que Roman il est monté en puissance petit à petit parce qu'au départ, dans la saison 1 notamment, il passe vraiment pour un branle-couille total où il ne dit rien, il est incapable
de
comprendre ce qui se passe en fait. Et c'est vrai que petit à petit, tu vois, ils ont disséminé de plus en plus dans la saison 2 et surtout dans la saison 3, je trouve, des moments où il a le lead et il comprend, et tu vois, il est politiquement, il est hyper fin, et il a toujours une vision assez
la finesse n'est pas le terme que j'utiliserais pour parler de Romulus Roy.
Ouais, mais tu vois, politiquement en fait, tu vois, globalement, il y a quelques moments,
il a du flair.
Voilà, et ça, puis il y a quelques moments où en fait il a des sorties où il comprend un peu la situation géopolitique, etc. Il comprend ce qui se passe, tout en étant tellement fucké que effectivement c'est compliqué quoi.
Je cherche quelqu'un à demander dans le chat.
C'est
et
la
je
saison
l'ai 2,
plus. Ça.
Oui, c'est saison 2, on est d'accord. Est-ce que l'épisode de Boar on the Floor, Caracol, c'est saison 1
saison
Non, c'est
2.
Saison 2. On va en parler. Oui, alors je me souviens de cette scène de Roman. Je me souviens aussi du fait que c'est un peu surprenant venant d'un personnage qu'on connaît et qu'on comprend pas encore beaucoup. Et je pense que la vraie diff, c'est que toute la saison 1, si quelqu'un doit prendre le lead, c'est Kendall, tu vois, c'est comme ça que c'était prévu. Et d'ailleurs, Roman, à un moment, il est dans sa team. Et quand Kendall rate son coup d'état parce qu'il est coincé dans les bouchons, Roman, il est censé voter avec lui, il l'a convaincu. Sauf que Kendall, il est pas là. Et Logan, il est là. Et Roman, il y a cette scène où il commence à lever sa main et Logan, il lui dit « J'espère que tu te renifles les selles !» Et Roman, genre vraiment, il rétracte sa main comme, tu sais, les escargots quand tu touches leurs yeux et qu'ils font « Non !» Désolé, je faisais ça quand j'étais petite, je le fais plus, ok. Et vraiment, c'est le préquel de la tête de la dick pic, en moins forme, mais c'est la même énergie. Et du coup, Roman, il avait pas la place d'être qui que ce soit. Dans la saison 2, vu que Kendall est hors limite et que aussi il est très fâché contre Kendall dans la saison 2, il va prendre cette place.
C'est pas la saison 1 de la fusée, hein, je crois, ça vient plus tard.
Si, parce que la fusée, c'est au mariage. La fusée, Roman qui fait exploser sa fusée, c'est au mariage de Shiv. Ouais, ouais. C'est censé être sa victoire de la... Je crois, hein. Dites-moi si je me trompe, mais Roman qui voit en direct son lancement de fusée exploser et qui range son téléphone et qui va se reprendre un gin tonic, c'est clairement au mariage de sa sœur... Pendant que Logan est encore en train d'essayer de faire un coup d'état avec Stewie et Sandy sur...
C'est pas avec tout le dos avec Jerry, mais qui vient plus tard.
Alors,
ça vient saison 2, je crois.
Le moment de la fusée, Roman et Jerry sont pas encore en train de s'envoyer des textos bizarres.
Okay.
Je pense, Léa, tu as raison. Saison 1, c'est la fusée, parce qu'il me semble qu'au mariage,
Tape dans Google, on fact-check en direct.
Allez, Samuel Etienne, il y a quoi? Rocket, Roman, Roy, Succession. Ça, c'est du Google fou, ça s'appelle. Pas du tout, j'ai pas trouvé la saison. Hop.
Quelle joie.
Y a pas. J'ai raté. J'arrive.
Non, mais là, c'est quoi?
Bah là, c'est la scène, mais je sais pas si ça va être marqué, genre, c'est dans quel épisode, tu vois. On arrive, la mif. On est là. C'est pour ça que je fais le check-up en direct, après, c'est chiant.
Je suis pas sûr que ce soit au mariage de... Si, c'est au mariage? Je sais plus.
Bah si, hein. C'est clairement au mariage de Chip, je pense.
Pardon, on regarde.
Vraiment, les têtes de Kieran Culkin, c'est ma passion. Oui, c'est au mariage de Chip. Merci.
Ah bah,
le fact-checking dans le chat. Voilà, nous avons des gens qui vérifient les fake news pour nous. Je viens de voir la saison, c'est bien à ce moment-là. Ah. Ok, merci beaucoup, Steel Mart.
Merci.
Et oui, bah en parlant de scène inoubliable de la saison 1, il y a quand même ce... En fait, il y a les deux saisons, je trouve, les deux premières saisons, notamment de Succession, même les trois, se finissent sur un truc que tu l'avais pas dans ta liste, de qu'est-ce qui peut mal se passer.
Ah oui.
Et t'avais pas dans ta liste, Kendall il va rater parce qu'il va... Du coup, on en est où? C'est un meurtre? C'est un homicide involontaire? C'est un accident? Je sais pas, on en est où en termes de responsabilité pénale?
Je sais pas non plus.
De
Mais
Kendall.
En tout cas, selon Logan, c'est un meurtre.
Selon Roman, je cite, qui est la vraie victime ici? J'ai dû attendre 45 minutes mon gin tonic. Parce qu'il y avait un serveur en moins. Donc oui, rappelons que pour les technicalités de la scène, c'est Kendall qui conduit en état d'ébriété et sous kétamine, du coup, il roule à gauche parce qu'on est en Angleterre, donc déjà de nuit dans la campagne. Bon,
c'est
déjà
lui
on
qui
est
conduit.
Sur... C'est lui qui conduit et c'est le serveur qui, parce que le serveur, il a pris de la kétamine alors qu'il en avait jamais pris avant et du coup, il est trop fucked up pour conduire. Non, c'est ça. Le serveur, il a pris de la drogue. Il en a proposé à Kendall. Kendall a dit non, je veux pas ça, je veux de la cocaïne. Mais du coup, le serveur vient de prendre de la kétamine, donc Kendall il dit bah vas-y, je conduis. Et le serveur voit quelque chose ou pense voir quelque chose et il attrape le volant pour donner un coup de volant.
Ce qui est pas une bonne idée.
Ce qui est pas une bonne idée. Ça finit dans l'eau. Kendall effectivement plonge une ou deux fois et finit par ressortir. Mais là où je pense qu'on est sur une responsabilité pénale et morale, c'est qu'il a juste été sous la douche et qu'il a été dansé avec ses enfants et que pendant ce temps, ce gars il est mort dans un lac et que il le sait, qu'il le dit à personne quoi. Voilà. Homicide involontaire, je pense qu'on peut, voilà, je ne suis pas, on peut appeler Maître Eolas pour trancher, mais je pense qu'on pourrait défendre, cette théorie. Ça, c'est inoubliable comme fin de saison.
Il ne prend pas la quête, mais il avait pris de la coke avant.
Oui.
Merci Marty, vraiment.
Merci Marty pour les. On sent que c'est frais là. Là, on sent la personne qui vient de finir la saison. Quid de cette chute de Kendall totalement en fait, impossible de l'avoir venir quoi.
Oui, et surtout. Tu comprends, comment dire? C'est-à-dire que je crois qu'avant cet épisode, tu te dis, OK, c'est bon, Logan, il est bouclé, il est fini, et en gros.
Bah, en plus, fin de saison.
La saison 2, ça va être,
qu'est-ce que
Kendall donne à la tête de cette boîte? Parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment ce truc, tu vois, je me disais, OK, bah, en fait, peut-être que Succession, après, ça devient,
le chien qui court après une voiture, une fois qu'il l'attrape, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Genre, bah, vas-y, gamin.
Non, ils sont très, très forts, et surtout, la façon dont Logan, reprend la main psychologiquement sur son fils en l'espace de 5 minutes, mais même pas, de 3 minutes, de juste 2 phrases, où t'inquiète pas, je vais te protéger.
Et il lui fait un câlin et c'est vraiment le câlin de la mort, quoi. C'est le death hug.
Jeremy Strong qui est arbore, je crois, vraiment pour la première fois, son regard vide, tu sais. Je crois pas qu'avant, il ait ce regard aussi paumé, aussi fucked up dans la série.
Je pense qu'il l'a un peu quand il casse tout dans la salle de bain, en se rendant compte que son père, c'est un connard. Assez tôt dans la saison 1, il rentre dans une salle de bain, il fracasse tout parce que son père, peut-être parce que son père lui a dit non, tu vas pas être PDG. Mais il a encore une forme de colère. Là, tu sens qu'il est...
Voilà, il est résigné total.
Ouais, il est vidé. Mais il vient de perdre 2-3 fois d'affilée. Donc, je crois que dans la saison 1, il perd 3 fois contre Logan.
Et surtout, il a buté
qui, en plus, se remet d'une attaque et tout. Mm. Et aussi, bien sûr, il a été impliqué dans une mort.
Incroyable, quoi.
Oui. Plus la cocaïne, c'est quand même un mec qui, quand on le rencontre, il me semble, il prend pas de drogue au début de la saison.
Il est clean.
Il est sorti des drogues, voilà il est clean. Mm. Et il retombe dessus en partie à cause de ce que Logan lui fait subir. Mm. Mais tu rajoutes à ça aussi la culpabilité de l'addict qui est retombé dans l'addiction et qui, a causé une mort, en fait, parce qu'il cherchait de la drogue quand même. De base, s'il avait pas voulu sortir du mariage, a priori, ce jeune homme serait toujours vivant. Et, dans sa grande mansuétude, Logan l'emmènera visiter la famille du défunt dans la saison 2, histoire de bien appuyer.
À la fin de la saison, il est brisé. Oui, et c'est vraiment un euphémisme, je trouve. C'est plus que brisé.
Et en même temps, we can go deeper. Vraiment, Jeremy Strong, il nous a offert tout ça et il était là, c'est bon, je suis échauffé. On peut y aller pour la saison 2 où il joue un milliard de nuances de Kendall. Est-ce qu'on passe à la saison 2?
Oui, je vais faire pipi pendant ce temps-là parce que je suis pas un streamer professionnel.
Suivez néanmoins, je vais te faire un shout-out dans le chat. Suivez, c'est Fab Florent ou Fabrice Florent? Suivez Fabrice Florent sur Twitch car il fait aussi, en plus des podcasts, il fait parfois des Twitch. Et il est possible qu'on fasse un truc ensemble, l'un de ces quatre, on se l'était calé et on l'a décalé, on l'a pas recalé mais on va le recaler. Et on a aussi un live unique, ça c'est sûr, on va en faire un de ces quatre sur un sujet assez cool qui est plus sweet que ce qu'il y a dans Succession. Et on se parle aussi de peut-être un format un peu plus régulier tous les deux sur Twitch, ce qui me ferait très plaisir. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne de Fabrice Florent si vous voulez plus de Mimi et Fab Flo. Et bien sûr que vous en voulez plus, ça fait déjà 10 ans que ça dure. Succession, saison 2. Kendall redevient le chien d'attaque de Logan qu'il envoie faire son sale boulot, tenu par le secret de l'homicide au mariage. Kendall et Roman bossent conjointement, mais Roman et Chauvin détestent Kendall car ils ne savent pas pourquoi il a tenté de trahir leur père avant de retourner sa veste. Chauvin, conseillère en politique, cède aux sirènes de Logan qui lui promet de faire d'elle sa successeuse. Pendant ce temps, Connor, fils aîné issu d'un premier mariage, caresse le rêve ridicule de devenir président pour annuler les impôts, en gros. Mais pas annuler les impôts en mode la gauche, annuler les impôts en mode « je suis très riche et j'en ai marre de payer des impôts ». Rappelons que ces gens sont des républicains. Chauvin révèle sa future promotion de PDG de Waystar Royco devant l'intégralité de la famille Pierce qui possède un grand empire médiatique de gauche que Logan veut racheter et elle gâche tout. L'étrange relation entre cousin Greg et Tom, le mari à présent de Chauvin, se renforce alors que le scandale des croisières devient public et met en danger l'avenir financier de Waystar Royco. Rhea Jarrell, la conseillère de la famille Pierce, change de bord et rejoint Waystar Royco parce que Logan l'annonce comme PDG, PTDR. Pendant que Kendall rappe pour l'anniversaire, pour honorer son père, morte, vraiment le meilleur moment. Marcia, la compagne de Logan, apprécie peu, rapport qu'il la trompe probablement avec Rhea, en plus de lui avoir filé le job de PDG sans avoir prévenu Marcia, qui a quand même des parts dans l'entreprise. Au congrès américain, où la fine équipe de Waystar Royco doit répondre des méfaits qui leur sont reprochés, notamment dans le scandale des croisières, tout le monde balbutie fort, sauf Kendall, qui sauve quelque peu les meubles, pendant que Chauvin oublie toute sororité en intimidant une victime d'abus sexuels perpétrés sur ses croisières. Ce qui fait fuir Rhea Jarrell, qui commence à se dire « Attends, ce seraient pas les méchants de l'histoire, en fait, les Roy ?» Sur son yacht, Logan joue à « Qui va aller en tôle pour moi aujourd'hui ?» et MDR by Beach, c'est évidemment Kendall. Lequel décide donc, avec l'aide de cousin Greg, de devenir un tueur et d'assassiner son père en révélant, au lieu de se porter coupable de tous les méfaits commis pendant les croisières, en révélant au monde que son père était au courant, qu'il est une mauvaise personne, et il devient donc l'assassin que son père l'a accusé de ne pas pouvoir être.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette saison 2, Fabrizio.
Saison incroyable, la saison 2.
Est-ce que c'est la best pour toi?
Ouais.
Ouais, clairement. Je pense pour moi aussi. Hein. La 3, on commence à tourner un petit peu en rond. La 2, c'est dans son jeu, là. On a passé la 3e, 5. C'est quoi la plus grande vitesse? 5.
5e ou 6e, c'est...
Ouais. On a passé la 6e, on a enclenché la Nitro. Vous l'avez, référence okay. au film Club, Tokyo Drift. Et on est pleine bille sur l'autoroute de la famille toxique.
Ouais. C'est, en fait, moi, cette saison m'a vraiment fait dire, OK, c'est vraiment une série de très, très, très haut niveau.
Très, très, très lourd, lourd, l'équipe streamait ça fort.
Et notamment, je trouve à quel point ils arrivent à montrer les différences qu'il peut y avoir. Tu sais, cette fameuse épisode où ils vont chez les Pierce, là.
C'est mon épisode préféré. L'épisode Turnhaven. J'ai même le nom, tu vois, genre, spontanément. Ouais. C'est donc la saison 2, tous les épisodes ont le nom d'un endroit où ils se trouvent. Sauf le final, tout le petit fun fact. Tous les épisodes finaux de Succession ont un nom qui est issu du même poème.
Oh.
Voilà. On pourra lire le poème après si vous voulez. Vous me le rappellerez dans le chat, je l'ai pas noté dans le conducteur.
Dormi, vous en savez des choses.
Elle en écoute des podcasts aussi. Oui. Où les gens racontent des choses. Mais ça fait comme ça qu'on finit par savoir des choses. Voilà. Maintenant, vous le savez. Et donc oui, dans la saison 2, tous les épisodes ont le nom d'un endroit où ils se trouvent, puisque c'est une saison très épisodique pour le coup. Et Turnhaven, c'est le siège de cette famille Pierce qu'on voit très peu, avec Nan Pierce, la matriarche, qui est un genre de Logan Meuf de gauche, qui est trop bien.
Bah oui.
Mais ce dîner, il est horrible.
Ce dîner, mais c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est vraiment les opposés, quoi. T'as vraiment ces deux visages de l'Amérique. Et je trouve ça génial. Et effectivement, ce moment où Shiv... Elle décide par ego, parce qu'en fait...
Et parce qu'elle a peur que ça ne soit pas vrai, parce qu'elle doute toujours que Logan, il lui dit ça peut-être, mais c'est pas vrai,
elle se dit, ok, si je le dis là, en fait, ça va devenir vrai, et donc à un moment donné, forcément, il va plus pouvoir reculer. Je me suis enfoncé de 25 centimètres dans mon fauteuil, j'étais là, mais c'est pas possible qu'elle fasse ça.
Dans mon corps, frère, vraiment, j'étais... Et encore une fois, je pensais que ça ne pouvait pas être dépassé jusqu'à quelque part entre le rap de Kendall, mais ça c'était vraiment trop marrant, et la dick pic. On en reparlera dans la saison 3, mais vraiment, c'est un moment de cringe, je pense, équivalent.
Entre deux.
Mais ouais, vraiment, Shiv qui se dit, allez, my time to shine, était là, non, 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 non. Après, je trouve que cet épisode, c'est un des plus caustiques de la série, parce qu'il montre que... Au final, les Pierce et les Roy, ils sont quasiment pareils.
Oui.
D'ailleurs, on a un élément très important de la famille, de l'entourage des Pierce, qui est Rhea Jarrell, qui change de bord et qui va rejoindre Logan. Et d'ailleurs, l'épisode Turnhaven se finit avec Logan qui gagne et qui dit Money wins, l'argent gagne. Puisque même si ils se sont ridiculisés, même s'ils ont été de droite et inculte et désagréable et vulgaire et tout ce que tu veux, et que Shiv, elle a embarrassé tout le monde, Kendall, il chie dans son lit. Pendant ce séjour, bah déjà à la fin, juste Logan il va te jeter des milliards à la gueule et tu vas finir par dire oui, parce que c'est comme ça que ça marche. Et en fait, je pense que Succession, ça dit aussi que au bout d'un moment, trop d'argent ça lie tout, tu vois. Genre, tu peux pas être éthique, tu peux jamais avoir une vie éthique avec autant d'argent. Et tu vois que bah les milliardaires de gauche et les milliardaires de droite, quand tu les mets en face d'une table, les deux ils se méprisent, mais les deux ils font la même chose. Ils ont du personnel de maison qui les sert. Kendall, il chie dans son lit, c'est toujours pas Nan Pierce qui va nettoyer, tu vois. Donc, ils ont beau être là. Nous, on est du bon côté de l'Amérique et on cite Platon ou Shakespeare, je sais pas quoi, là, avant le repas, au lieu de citer Jésus. Bon. Citer Jésus, pardon. Citer faire les grâces. C'est peut-être plus respectueux de dire.
Citer Jésus.
Faire un petit SO à Jesse.
Jesus.
Je trouve que c'est cool qu'il y ait un épisode qui nous montre aussi que c'est pas une série qui est, comment dire ça, manichéenne
partisane.
Sur, voilà, partisane, merci. Sur les républicains et les gens de droite, c'est les méchants. C'est en gros, à partir de moi où t'es chez les ultra riches. T'es probablement humainement un peu un sac à merde, tu vois, parce que juste t'es hors sol. Et c'est là où Kendall rencontre Naomi. Enfin, se met en couple avec Naomi, qui va devenir un personnage semi-important, mais une figure récurrente de sa vie, et qui est plutôt pourvoyeuse de drogue, ce qui est pas très bon signe, du coup, pour Logan. C'est aussi pour ça qu'il chie dans son lit, c'est pas juste que le rôti était pas assez cuit, quoi. Et du coup, ils arrivent à assassiner Logan. Écoute, Steel Marty, on va faire saison par saison, tu verras, peut-être qu'on sera là. Et du coup, à la fin de la saison 3, Logan meurt et tout. À part l'épisode de Thornhaven, il y a Bore on the Floor.
Il y a Bore on the Floor, bien
sûr. Dans la saison 2, qui est, je pense, le moment où j'ai... En fait, je me souviens plus à quel point dans la saison 1, tu comprends que les abus de Logan étaient aussi physiques, envers ses enfants notamment, et que c'était pas juste psychologique et qu'il n'y a pas juste un côté, bon, ok... C'est un petit gars bourru avec un énorme charisme qui parle fort, mais enfin ça va, tu vois, au bout d'un moment, gueule-lui dessus et puis ça va le calmer. En fait, non, Logan, il a aussi énormément de violence physique qu'il a exercée, bah, notamment sur Roman, comme on va le comprendre au fil des saisons. Et pour moi, je pense que Bore on the Floor, c'est le moment où j'ai compris, ok, ouais, il est vraiment terrifiant, et il y a tout un côté dark de... parce qu'il y a scandale des croisières, mais t'es là, ok, tu sais pas trop s'il était au courant, mais t'es là... Je pense que probablement, Logan, il a ordonné de buter des gens, tu vois, dans sa vie.
Oui.
Enfin, il a vraiment un garde du corps qui a l'air capable de tuer quelqu'un avec un pouce, oui, et un regard. Et là, de voir tous ces adultes à genoux devant lui à se battre pour des saucisses...
Mais c'est surtout, il y a aussi un truc très... terrible que ce moment montre, c'est que en fait il y en a aucun qui a un amour propre. En fait, ils sont tous sous emprise, ils sont tous incapables, ouais, de dire non, mais en fait là t'es en train de dépasser. Il y a Frank qui revient, je crois, à ce moment-là. C'est le fameux week-end où il revient, non? Il le réintègre.
Oui, il le réintègre dans la...
Le parrain de Kendall, c'est ça?
C'est le parrain de Kendall, c'est un des bras droits de Logan et il le vire.
Qui travaillent ensemble depuis des millénaires, quoi.
Il le vire saison 1, je crois que c'est en partie parce que Roman ne veut pas travailler avec lui. Il veut pas l'avoir comme chef.
Roman,
il est là, vas-y, laisse-moi faire ma vie sans avoir un babysitter, en gros. Et là, bah, il réintègre Frank qui part en mode full dignité. Quoi, après toutes ces années de bons loyaux services? Mais bon, Logan, il te rappelle, il jette des millions à la gueule et puis tu reviens, quoi. Et il revient pour ça, yes. Alors, on fait un petit team building pour accueillir Frank de retour dans l'équipe après un petit congé sabbatique. Je crois qu'il y a que, il me semble que déjà il y a pas ou peu de femmes qui sont invitées, donc je sais que Shiv est pas là par exemple, et il me semble qu'il sorte Jerry avant Logan il fait en sorte que Jerry soit pas dans la pièce par exemple au moment où ça se passe.
C'est Roman qui filme, c'est ça, à un moment donné?
C'est Roman
et
qui, oui,
Kendall lui dit mais en fait filme pas.
Ouais, et ben c'est là aussi où ils te font quand même régulièrement des piqûres de rappel pour te dire c'est vraiment des mauvaises personnes et il y a un truc d'empathie qui est cassé en eux, et même s'ils en ont les uns pour les autres dans une certaine mesure, je pense qu'ils en auront jamais pour les gens qu'ils estiment comme en dessous d'eux, tu vois. Mmh. Et notamment, bah, ce fameux truc de no real person involved, pas de vraie personne impliquée dans l'homicide, sous-entendu. C'était pas un des nôtres, c'était pas un riche, donc c'est pas une vraie personne, quoi. Et Bore on the Floor, c'est aussi très important pour la relation entre Greg et Tom, dont on n'a pas encore trop parlé, et il faut qu'on en parle. Donc, cousin Greg, il arrive dans la saison 1, il commence, c'est un cousin, c'est le fils du frère de Logan. Mais lui, sa partie de la famille.
C'est le petit-fils.
Pardon, oui, le petit-fils du frère de Logan. Donc, il est de la même génération que... Enfin, il est d'une génération en dessous de Kendall, mais il a la fin de vingtaine, je dirais, quand il arrive dans Succession. Mais sa partie de la famille n'est pas... Enfin, lui, il a pas grandi dans l'opulence. Il commence, il bosse dans un des parcs d'attractions Wildstar, il fume de la beuh, il vomit dans son costume, et il se retrouve aux 80 ans de son grand-oncle. Et en trébuchant aux bons endroits, il se retrouve avec un job à Wildstar, en bonne partie parce que Tom a dit « Toi, viens là.
Je vais te groomer.
Ouais, je vais bien te groomer et tu vas être mon Greg. Mon petit Greg à moi, et on te fait pas de tomlette sans casser few Gregs. » Et du coup, immédiatement, Tom en a fait son complice dans le scandale des croisières, puisqu'il l'a envoyé détruire les documents à sa place pour que ce soit Greg qui est bipé et que si jamais il y a enquête, le nom de Tom n'apparaisse nulle part. Donc bon, c'est pas une relation très saine déjà. La relation Greg et Tom, c'est un truc qui est hyper important dans Succession et dans les gens qui regardent Succession et tout, et qui est un peu confus pour moi. Mais donc je dis que Bore on the Floor, c'est important pour ça, parce que c'est le moment, et je suis un peu déçue qu'ils aient lâché cette storyline, peut-être ça reviendra mais je suis pas sûre. Dans la saison 2, il y a une histoire, il y a une biographe qui veut écrire une biographie de Logan, et lui il veut pas évidemment, et qui cherche à parler à des membres de la famille, et Greg étant un débutant, il lui dit pas off the record, et du coup il lui parle, il lui dit des trucs, et Logan il fait Bore on the Floor pour découvrir qui a parlé à la biographe alors qu'il faut pas parler à la biographe. Et Greg il a dit à Tom, moi j'ai parlé à la biographe, et je suis pas sûre qu'elle sait que j'ai parlé, que c'était pas on the record. Et en fait Tom il est par terre avec Greg, il est en train de courir après la saucisse et de se faire humilier, et il pourrait le jeter sous le bus, il pourrait complètement le sacrifier, et il le garde avec lui, et ça c'est aussi une pierre angulaire de leur relation. Qu'est-ce que t'en penses de cousin Greg et Tom? Qu'est-ce qu'on en dit de cette relation bizarre que certains voient comme homo-romantique à minima, peut-être même homo-érotique, enfin homosexuel à tous les niveaux. D'autres voient comme un truc de mentor toxique bizarre.
Pour moi, c'est les deux outsiders. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la famille. C'est-à-dire que, alors, certes, en plus, Greg il a l'avantage d'avoir du sang.
Oui.
Roy, là où Tom n'en a pas du tout. Mais c'est vrai que quand Greg arrive, il est complètement à l'extérieur de la famille. Il se fait complètement négligé par l'intégralité de la famille. Et tu vois aussi à quel point ils sont incapables de juste intégrer un de leurs cousins quand même, parce que c'est leur cousin, quoi. Mais ils en ont strictement rien à foutre. Et en fait, moi, je trouve ça intéressant de voir à quel point Tom va s'en servir comme d'un allié, comme d'un pare-feu, comme d'un fusible parfois, mais aussi, t'as raison, en fait, tu vois, de le protéger à certains moments là où il aurait pu le taire.
Après, est-ce qu'il le protège par calcul de bah, comme ça, il me sera redevable?
Toujours par calcul, parce que aucun personnage.
Mais je pense que Tom a des émotions réelles pour Greg, tu vois. C'est pas juste par calcul. C'est aussi, il veut l'avoir dans sa vie et ça va se cristalliser à la fin de la saison 3, tu vois, mais je trouve que c'est. Je pense qu'il veut pas être tout seul et qu'il est déjà tout seul avec oui. Shiv, tu vois. Mm. C'est déjà, parce qu'elle lui a déjà dit, salut, j'ai une relation libre. Ouais. Aussi, c'est le moment de dire oui, je le veux. Donc,
après,
oui, je le veux.
Je sais pas si c'est homo-érotique entre eux, parce que enfin, je crois pas vraiment qu'ils le mettent en scène, qu'ils mettent en scène.
Il y a tout un pan des spectateurs pour qui il y a au moins une homosexualité latente, refoulée peut-être d'un côté ou de l'autre. Il y a plein de trucs. Alors, quand même, dans la saison 3, Tom dit à Greg l'histoire de Néron et Sporus,
oui.
là.
Oui.
Donc, Néron qui a tué sa femme, castré son esclave Sporus et l'a épousé en lui faisant porter les vêtements de sa femme. Et Tom dit à Greg, je te castrerai, je t'épouserai en un clin d'œil. T'es là. Et avec vraiment, en fait, quand tu regardes Matthew McFadden, comment il joue, Tom, quand il parle à Greg, il le regarde dans les yeux, dans la bouche. Enfin, vraiment, il y a une intensité dans les regards, dans le jeu. Et il y a un moment où il lui dit. Parce que Greg, il lui dit, mais finalement, comment t'as fait pour avoir Shiv? Genre, sous-entendu, tout le monde sait que t'es out of her league, genre, t'es pas assez bien pour elle. Et Tom, il est un peu vexé, il lui dit, tu sauras que j'ai une bite de la taille d'un séquoia et que baise comme un TGV. Et Greg, il lui dit, prouve-le. Tu vois, il y a plein de petits trucs, je suis là. Peut-être c'est et du banter, comme on dit.
Il y a ce resto en tête à tête avec les ortolans, là.
Il y a le resto en tête à tête avec les ortolans, la honte. Tu vois, la honte. On met une serviette sur sa tête parce que pour cacher la honte de manger cet oiseau si délicat. Il y a quand ils pensent qu'ils vont aller en prison tous les deux.
Alors, ça se mange comme ça, hein, tu sais, les ortolans.
Oui, je sais qu'ils l'ont pas inventé pour la série, mais c'est mettre ces deux personnages masculins dans ce setting-là, dans un dîner qui est quasiment aux chandelles, tu vois. C'est quand même, et qui est le dîner d'intronisation de Greg dans ce monde. Moi, je sais pas quoi foutre de cette relation non plus. Elle me gêne parce que j'ai l'impression. Moi, j'aime pas Greg. Je pense que c'est le pire de tous.
Je pense
qu'il gagne à la fin.
Je crois aussi. Mais je suis très d'accord avec toi. Pour moi, Greg.
J'ai juste l'impression de voir la corruption de Greg, tu vois. Et qu'il y va joyeusement, en plus, ce con, tu vois. Je suis là, vraiment.
Mais il est venu pour ça. C'est-à-dire qu'en plus, saison 1, il vient vraiment pour s'intégrer à la famille et non seulement pour s'intégrer mais pour
qu'il est dans la maxi house aussi,
pour apprendre les codes, etc. Et en fait, pour moi, c'est juste c'est l'enfant maudit, tu vois, c'est vraiment la création maudite de cette famille en fait et de ce système qui à la base était trop cool en plus.
Oui, et en même temps, Greg, c'est aussi notre porte d'entrée vers le frère de Logan, Ewin, joué par Chino, lui a fait un shout-out dans le chat, James Cromwell, incroyable acteur en effet, qui représente bien aussi une forme d'hypocrisie, puisqu'il est très engagé à gauche et pour l'écologie, etc. Il reproche perpétuellement à son petit-fils d'avoir cédé aux sirènes de l'argent et de travailler pour Waystar, qui est... Genre, pour lui, il dit à un moment que son frère est pire qu'Hitler en termes de mal qu'il a fait à l'humanité, parce que comme sur les chaînes de Waystar, il y a notamment des climato-sceptiques et des fake news et des choses comme ça, pour lui, et que c'est très regardé, ça va avoir un impact pire sur l'avenir de l'humanité que Hitler, quoi.
Il a sans doute raison à terme.
Je pense qu'il a raison. Mais il vit avec l'argent de son frère.
Bien sûr.
Il profite de la fortune de son frère. Ils sont tous les deux partis de rien. Ils ont émigré aux États-Unis ensemble. On met beaucoup de zones d'ombre sur la jeunesse de ces deux-là. Mais il a clairement des centaines de millions. Il est au board de Waystar Royco. Donc, il est quand même d'une hypocrisie. Et il reproche à Greg plein de trucs tout en vivant sur l'argent du mal, quoi, du coup.
Oui, mais...
De l'étoile noire.
En fait, tu vois, pour moi, tu peux prendre l'argent et essayer d'en faire un truc bien. C'est ce qui se passe. D'ailleurs,
Il finit par donner toute sa fortune à Greenpeace... En partie parce que Greg l'a trop déçu.
Non, et puis,
je pense qu'il l'a désabusé, tu vois.
Et puis, il finance aussi le lanceur d'alerte. Il finance la défense, etc. Il finance plein. Enfin, il finance ce truc-là.
Mais est-ce
le backup.
Tu vois, je pense qu'il y a. En fait, j'entends ce truc de tu peux utiliser ton argent, mais pour enfin c'est toujours cette question de est-ce que tu peux renverser le système de l'intérieur. Je pense qu'il a vraiment vécu toute sa vie comme ça, tu vois. Genre, je pense qu'il y a un moment où si t'es honnête avec toi-même, à 40-50 ans, tu cash out, tu vends tes parts, et t'as quand même beaucoup d'argent à mettre dans des œuvres de charité, sans continuer à vivre au crochet de Waystar Royco et de bien faire ton beurre sur des investissements juteux.
C'est très possible qu'à 40-50 ans, il n'avait pas la même image.
On ne sait pas,
tu vois.
Ouais. On sait pas.
J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il y ait, je sais pas, tu vois, un épisode un peu pour comprendre un peu mieux leur relation et de voir Logan plus jeune, enfin tu vois, mais je crois qu'on n'aura jamais ça, ou alors ça sera un spin-off.
Il y a une idée.
La jeunesse de Logan, quoi.
My Girl Joanna Robinson a parlé dans un de ses podcasts. C'est pas du tout un truc qui est en développement ou quoi. Hein. C'est juste une idée qui, où elle était là, j'ai vu passer ça et c'est trop une bonne idée. J'étais là, maintenant je veux ça. C'est un spin-off sur la jeunesse de Logan incarné par James McAvoy. Qui est genre le seul écossais aux yeux bleus qui peut, je pense, jouer un jeune Logan c'est Roy convaincant. Et j'étais en mode. Oui. Maintenant je veux ça. Avec Matt Smith dans le rôle de Ewing.
Ah ouais.
Qui roule un peu les airs, quoi. Qui se met à rouler les airs. Et j'étais en mode, oh non, je veux ça maintenant. J'ai trop envie de voir la jeunesse de Logan.
Bah oui, comment il a fait. Hein. Non, jamais. Comment il a fait pour monter cet empire, quoi. Je trouve ça assez fascinant. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas plus de background sur l'histoire de ces persos, quoi. Voilà. Tu vois, par exemple, on comprend que la jeunesse des enfants a été difficile et violente et que Logan a été violent, notamment avec Roman. On le comprend par juste des bribes et une claque qu'il lui met, je crois, pendant le séminaire, là, pendant Davos.
ouais, le moment de Davos à Hard Justice, où Logan n'est pas bien, il vomit un moment pendant le déj et tout se casse la gueule. En gros, c'est le moment où le scandale des croisières, l'article sur le scandale des croisières sort en plein forum de Davos, en gros, donc ils sont là. Alors, on était là pour rassurer les investisseurs, donc c'est bof. Ouais. Et Logan, non, il met un revers à Roman, il lui fait sauter une dent parce qu'il porte des bonnes grosses chevalières en plus.
Après, il lui dit qu'il l'a pas touché.
Il lui dit, il fait genre, j'ai oublié, quoi, non, je t'ai pas touché. Et c'est le moment où, je pense que c'est une des scènes d'acting de Jeremy Strong qui me reste en tête parce qu'il y a un truc qui est tellement viscéral où genre, quand Logan, il frappe Roman, Jeremy Strong, il attrape Roman, il l'écarte et il hurle sur Logan. Il lui penche et lui dit, tu le touches pas. Et tu sens à quel point c'est déjà arrivé, tu vois. Et tu sens à quel point il est là en mode, je suis adulte, je dois le protéger et ça reste mon petit frère. C'est pour ça que je dis, s'aime quand même, tu vois. Un peu quelque part.
Je comprends pas pourquoi il lui met pas une mandale à ce moment-là, en fait. Tu vois, parce que
j'avoue,
pour moi.
Il a 80 ans,
Non, mais pour moi, il y a aussi ce truc, tu vois, de. Pour moi, il y a un truc un peu incohérent, c'est que s'il a vraiment été violent physiquement, en fait, il y a aucun des enfants qui est violent physiquement.
Bah, je pense, en fait, ça dépend ce que t'entends violent physiquement. En fait, ils ont tellement pas de relation avec les autres.
Alors, on sait pas ce qu'ils ont pu faire à d'autres personnes.
Bah, tu vois, il y a un moment où
oui,
Roman et Kendall, ils ont tatoué un SDF sur le front parce que c'est rigolo. Je pense pas que c'est vrai, mais quand dans la saison 3 Kendall confesse l'homicide, Roman il dit
moi aussi j'ai
buté, n'a jamais cartonné un gamin avec sa Porsche, tu vois, et je suis là c'est marrant ou pas, ou c'est vrai, je ne sais pas, c'est
non,
Roman
c'est pas, et c'est fait pour,
ouais. Je serais pas étonnée que Shiv allait je pense que Shiv allait très violence psychologique, mais peut-être aussi sexuelle, tu vois. Je serais pas étonnée qu'elle ait, elle fait des trucs à Tom où il est pas hyper consentant, bref. Mais en effet, il y en a aucun qui cogne les autres. Après, je pense que tu dis personne lui met une mandale. Enfin, cogner son père, tu vois, c'est un truc. C'est.
En fait, à un moment donné, t'es adulte.
Mais je suis d'accord, mais il me semble que c'est un cap. Surtout quand c'est un vieux monsieur aussi qui a vomi le matin même et tout. Enfin, bref.
Oui.
Complicado.
Au moins, il lui décocherait une bonne droite dans la gueule, tu vois. Le vieux, il canne par terre, il meurt. Voilà, fin de saison. Allez, suite.
Allez.
Pardon.
Terminé, ciao, bonsoir.
Mettez-moi showrunner.
Finale de la saison 2.
Mais ça aussi, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes.
Il est incroyable. Mais en vrai,
est-ce
les épisodes
tu t'y attendais, toi, de cette
donc,
fin.
La question du final de la saison 2, c'est qui va être sacrifié. Il me semble que dans l'épisode d'avant, on savait que ça allait être ça, la question de la fin. Et du coup, c'était un peu un jeu des chaises musicales, tout cet épisode sur un yacht, de qui va être sacrifié Tom, entre Frank, entre Logan, alors il y a des idées qui flottent un peu, genre on pourrait dire Jerry,
quoi.
Et ils sont là, on va peut-être pas sacrifier une meuf pour la faire, on a violé des meufs, tu vois. Même nous, on sait que c'est bof. Et en fait, Kendall, il est là, et ça fait toute la saison qu'il est pendu au basque de son père. Et en même temps, attends, je rouvre le résumé. Il me semble que dans la saison 2.
Et puis, il y a l'histoire de la.
Est-ce qu'il essaye quand même de le renverser?
Tom aussi.
Non.
Il y a Tom qui se prépare pendant toute la saison à aller en prison. Ou c'est la saison 3?
C'est la saison 3.
Ah,
il se prépare à aller en prison. Dans la saison 2, dans le final de la saison 2, c'est Shiv. Donc, Tom, il est clairement dans les candidats chauds, surtout que il a bossé à la direction de Roger, puisque c'est bon lui film, qui a fait détruire les documents, en vrai, via Greg, mais quand même. Et en fait, c'est Shiv qui va voir Logan et qui lui demande « S'il te plaît, fais, c'est pas Tom ». Et du coup, on peut se dire qu'elle condamne un peu son propre frère, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, et que bah, après, tu vois, tu te dis « C'est son mari, bon, elle n'a pas l'air beaucoup l'aimer, mais tu peux comprendre aussi qu'elle aille dire « S'il te plaît, on voit pas mon mari en tôle ». Mais du coup,
elle aurait été obligée de se positionner, en plus. Pour moi, c'est pour ça qu'elle fait ça.
Oui, oui.
C'est pas que pour sauver Tom, c'est juste pour ne pas avoir à ne pas prendre sa défense au moment venu face à son daron, parce que juste elle...
Moi, je m'attendais à ce que ce soit Kendall qui plonge. Je m'attendais pas au twist de fin, mais je m'attendais à ce que ce soit Kendall qui plonge, parce que c'est la saison où toute la saison, il est juste le larbin de son père. Et il fait... En fait, il est bon. C'est ça le pire, c'est qu'il est bon quand il est le larbin de son père. Il vide Voltaire, tu sais, il vire tout le monde et tout. Il arrive, il est hyper confiance en lui, machin, tac, tac, business. En fait, je vous vire, c'est ciao. Au congrès, il est hyper fort. Tout le monde se chie dessus. Kendall, il est hyper doué. Et en fait, bon, il y a son rap, ok, mais même ça, tu peux te dire, c'est gênant, mais c'est Kendall, en vrai, tu vois, c'est lui aussi, quoi, pourquoi pas?
C'est un moment de génie, son rap.
Oui, c'est pas comme son anniversaire déprimant de la saison 3, c'est pas genre Kendall qui a pris trop de cocaïne, même si il a probablement pris la cocaïne, c'est un vrai truc un peu débile de Kendall, comme Roman, des fois, il a des idées débiles, tu vois. Et du coup, c'était genre, bah, en fait, son père, ça l'intéresse pas s'il est bon, et qu'il est son larbin, il y a plus rien à casser, il est tout vide. Et de toute façon, son père aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc, et aussi, peut-être qu'il y a un... Moi, je pense que j'avais un peu l'idée de... Ça reste, tu vois... Peut-être qu'il y a un peu de méfiance encore. C'est quand même le gamin qui a failli m'avoir, tu vois. C'est pas plus mal s'il va en prison pour moi, ça va le calmer un peu. Il a quand même failli gagner. Il a essayé 3 fois dans la saison 1 et à chaque fois, il est passé pas loin. Donc là, Logan, il le tient, mais il sait peut-être pas jusqu'à quand. Parce qu'il se dit peut-être qu'il y a un peu de moi dans ce gamin aussi. Ça reste... My number one son.
Ce dialogue-là sur les Incas qui sacrifient leur fils au soleil, j'étais là, waouh. C'est incroyable.
Oui, alors, Gehanzin rappelle dans le chat, il faut dire que Logan aussi a été battu. Oui, bien sûr, c'est aussi une série sur les cycles de la violence, et les cycles de la toxicité, de avoir des traumas et pas les régler, ça fait que tu reproduis tes traumas et que tu les transmets, bah, notamment à ta progéniture. Après, j'aimerais pas être la personne qui est chargée de faire la psychothérapie de Logan Roy, parce que j'espère qu'il l'aurait bien payé s'il l'avait fait, mais on sait que clairement il l'a pas fait. Mais oui, il y a ces cycles de violence. Toi, tu t'attendais à ce que ce soit... Alors, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit Kendall qui plonge?
Oui.
Et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il ait un sursaut de vie?
Non.
Alors, moi non plus.
En fait, pour moi, c'était juste la fin de la saison, c'était ok, en fait, fin de saison 1. T'as ton père qui te tient par les yucks et en fait il va pas te les lâcher pendant toute la saison 2, c'est exactement ce qui se passe.
C'est un bon Doberman, le Logan.
Et en fait pour moi c'est ok, donc saison 3, Kendall est mort, en fait qu'est-ce qui va se passer entre Shiv et Roman pour la succession, voire même quelqu'un d'extérieur, mais je suis convaincu que Kendall va juste aller se sacrifier et qu'il va, je sais pas, tu vois, ils vont créer autre chose autour de ça, mais pas du tout qu'ils reviennent effectivement en mode allez, jette
ça,
ses feuilles en partant.
Ça drop les feuilles
là.
Et tout, là, machin. Il faut quand même noter que c'est pas mal grâce à Greg qui a peut-être été la pièce manquante du puzzle et qui a donné à Kendall l'étincelle qui lui manquait. C'est qu'il... En fait, quand Kendall y part pour normalement faire son discours où il confesse que c'était lui qui était responsable et qu'il va se faire incarcérer pour le scandale des croisières, il est tout seul dans l'hélico avec Greg. Et Greg, qui est chargé un peu toute la saison de son bien-être. Il doit le chaperonner, il doit surveiller qu'il prend pas trop de drogue. En gros, c'est l'antenne de Logan sur Kendall, mais au final, c'est une antenne qui a son propre agenda aussi. Et c'est probablement Greg qui lui dit...
Tu sais, il lui file son appart, là. Même si, effectivement, après, il finit par faire une soirée dedans parce que...
Oui,
en fait, ils sont
mais Kendall, il lui file un fat appart à New York, qui est aussi sa garçonnière personnelle. Bon.
Et d'ailleurs, effectivement, il y a le dernier plan de la saison, c'est Logan... qui sourit.
Oui, alors il y a eu beaucoup de... Ce petit sourire, tu l'as pris comment, toi? Ce micro-rictus quand elle regarde son propre fils l'accuser à la télé.
C'est exactement le même sourire que J.K. Simmons à la fin de Whiplash.
Oh, on a fait un film club sur Whiplash, on n'est pas d'accord, mais je suis d'accord avec toi là-dessus.
En fait, J.K. Simmons, donc si vous n'avez pas vu ce film Whiplash, je vous invite à le regarder. C'est une relation toxique entre un mentor et un petit génie de la batterie. Et effectivement, le mentor a une emprise complètement dingue qui est jouée par J.K. Simmons, qui est génial. Et effectivement, le dernier plan, c'est un regard, c'est un échange de regards entre les deux. Et en fait, il a un rictus qui en dit long et qui en même temps...
C'est terrifiant, quoi.
Tu décides, c'est toi-même qui l'interprète en tant que spectateur, quoi, tu vois, ce rictus. Et là, pour moi, c'est exactement pareil. C'est OK, il a fait ça, le boug, parce que vraiment, je croyais pas qu'il en serait capable. Et je lui dis depuis des plombes qu'en fait, il est pas un tueur et qu'il est pas assez bon pour me tuer. Donc forcément, il va pas être bon à la tête de cette boîte. Et peut-être qu'en fait, en vrai, tu vois.
Oui, oui, bah il y a Caracol sur le chat qui dit en effet, il me semble que juste avant le sacrifice de Kendall, Logan lui dit goguenard qu'il n'est pas assez un killer, complètement, il lui dit très, et je sais même pas s'il est goguenard ou s'il est juste direct, il lui dit you're not a killer, et parce que, bah, oui, c'est parce que Kendall il lui demande, dis-moi juste, est-ce que j'avais vraiment mes chances, est-ce que ça aurait pu être moi, ou est-ce que en gros tu m'as baladé tout ce temps, est-ce que tu as cru à un moment que je pouvais être PDG de ta boîte et que tu pouvais me la léguer, et c'est là où Kendall lui dit, où Logan lui dit, t'as pas ce qu'il faut, t'es pas un tueur. Et du coup, qui mieux que son propre père a tué pour répondre à cette accusation ? Et en même temps, tout comme dans Whiplash, moi, ça m'inspire aussi ce truc de, bah, du coup, si tu rejoins le camp des tueurs, nonobstant l'ironie dramatique par rapport au fait qu'Kendall est quand même mêlé à un homicide involontaire, bah, t'as perdu quand même, t'as perdu ton humanité, tu vois. Genre, oui, t'as gagné, entre guillemets, cette bataille contre ton père, mais tu repars dans une Zumba. Alors bon, quand l'alternative, c'est la prison fédérale, je peux comprendre que peut-être la Zumba est plus marrante. Mais tu repars dans une Zumba hyper toxique et bah c'est tout le drame de Succession. C'est que ces gamins, ils sont jamais libérés de leur père. Ils sont jamais libérés de leur éducation et des traumas qui les tiennent par les tripes et par les yucks aussi, quoi. Ce qui est super ironique de lui dire que c'est pas un killer parce que Logan lui tenait les couilles toute la saison, justement, parce que Kendall a littéralement tué. Tout à fait. Alright, saison 3.
Let's go.
Saison 3 de Succession. Qui finit du coup, c'est la fin de là où on en est et ensuite on parlera de nos attentes pour la saison 4. Saison 3. Kendall a causé un profond shift et se retrouve solo avec cousin Greg pendant que Logan réunit ses troupes. Chauvin, Roman et Jerry retournent à New York pendant que Logan se terre à Sarajevo avec la team Thune et Grosse Couille. Kendall tente de rallier Shiv, Roman et Connor à sa cause, mais une livraison de donuts l'interrompt. Jerry devient PDG par intérim, mais personne n'y croit. Logan intimide le président de la République, Kendall troll Shiv, bref, c'est tout un bordel. Tom devient fou parce qu'il est persuadé d'aller en prison, et Shiv s'en fout. Divers investisseurs font leurs apparitions, inquiets des relations entre Kendall et Logan. La situation de la boîte et la relation père-fils s'enveniment, mais les Roy prennent le temps de choisir un néo-nazi comme futur président. Au mariage de leur mère, les enfants espèrent pouvoir empêcher leur père de les sacrifier en vendant la boîte à Gojo, un grand empire tech. Mais tout quoi qu'est, Caroline, c'est trop tard. La daronne les a fumés avec l'aide de Tom. C'est la fin de Succession saison 3. Bisous. Et encore, j'ai réussi à ne pas évoquer la dick pic, à ne pas évoquer la relation bizarre entre Roman et Jerry, à ne pas évoquer l'anniversaire de Kendall qui à un moment crève-cœur à tous les niveaux. Donc on va parler de tout ça, mais... Je me suis dit que mes résumés étaient déjà un peu longs parce qu'en fait, il y a des trucs, tu te dis, ça va tenir la saison et ça tient vraiment un demi-épisode et c'est déjà, là, Kendall a reperdu et du coup, c'est re-Shiv qui croit qu'elle va y arriver. Ça va très, très vite. Oh, tu as revu récemment cette saison 3, on est d'accord? Mais t'as revu tout Succession il n'y a pas si longtemps.
Alors, j'ai revu Succession il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Et donc, la saison 3. Et là, j'ai regardé le dernier épisode, avant-hier, je crois, pour me remettre un peu dedans.
Ok. Moi, j'ai regardé toute la saison 3, du coup.
Et effectivement, comme tu dis, ça, je trouve que par rapport à la 2, il tourne un peu en rond et il y a tout ce bail. Tu vois, où j'ai l'impression que Logan, il reste à Sarajevo beaucoup trop longtemps et en fait.
Alors que ça dure
deux épisodes, ouais. C'est ça en vrai. Et qu'il y a une sorte de statu quo là qui joue à un moment donné au début de la saison où tu te dis, ok, où ça va et t'as l'impression que les scénaristes non plus savent pas trop où ils veulent aller, quoi.
Oui, c'est là où. Pour une série aussi bien construite, aussi bien écrite, on commence à se dire, les gars, on va tourner en rond comme ça tout le long. Genre, est-ce que c'est ça le propos? C'est qu'on va tourner en rond et c'est voulu et it's not a bug, it's a feature? Ou est-ce qu'on commence un peu à se dire, bah voilà, le chien court après la voiture et en fait, si on n'a pas les cojones de tuer Logan, si on n'a pas les cojones de tuer Kendall ou de l'envoyer en prison, enfin, si on peut pas changer une pièce importante du board, on va juste jouer la même partie encore et encore, quoi. Ou alors, il faut que quelqu'un gagne contre Logan, mais du coup, c'est quoi le show s'il n'y a plus Logan? C'est aussi peut-être un petit peu de peur d'y aller. Avec le recul, ça a fait un an et quelques qu'elle est sortie, tu l'as vu plusieurs fois cette saison. Tu penses que on est sur des scénaristes un peu perdus ou tu penses que c'est voulu et c'est le propos? Peut-être un peu des deux. Il y a eu aussi le Covid, il faut dire.
Ouais, c'est
une série qui a pris le Covid, alors surtout dans la saison 2, il me semble. Non, c'est ça, tournage de la saison 3. Mmh. C'est le Covid, ce qui explique notamment probablement que certaines guest stars comme Adrien Brody et Alexander Skarsgård,
ouais.
C'est Alexander, oui,
oui.
Soient assez peu présentes. Elles avaient été assez médiatisées. On les voit peu, Skarsgård va sûrement revenir. Adrien Brody, honnêtement, je pense pas, il n'y a pas besoin. Moi, j'étais un peu déçu, mais ça peut aussi s'expliquer par... c'est une saison Covid, quoi.
Effectivement, en fait, il y a un long moment de pause, comme le dit Chino dans le chat,
ouais,
entre la saison 2 et la saison 3, quasiment 2 ans. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'avec le recul, je trouve que cette saison tourne un peu en rond, dans le sens où, effectivement, il se passe plein de trucs complètement dingues, comme tu l'as dit, mais globalement, le fil de l'histoire, ça prend un peu de temps, en fait, tu vois, parce qu'il y a cette histoire avec Gojo où d'abord ils vont le racheter, puis finalement ils le rachètent plus, et en fait on sait pas trop, et puis
même
finalement...
avant tout ça, il y a la fameuse proxy battle, donc où il y a Sandy et Stewie, en gros, les investisseurs, donc les actionnaires de Waystar, sont inquiets de c'est quoi ce bail entre Kendall et Logan, etc., dont, du coup, Josh Aronson, je crois, qui est joué par Adrien Brody. Donc d'abord, il faut rassurer les investisseurs, enfin les actionnaires, on n'arrive pas à faire ça. Ensuite, il y a le fameux, du coup, vote de confiance, où bah, la famille Roy pourrait perdre le contrôle de la compagnie parce que le board des actionnaires dit « vous êtes trop fucked up ». C'est réglé en last minute par Shiv, qui essaye de se négocier un siège au conseil au passage, conseil d'administration, my girl. Mais c'est au moment où Logan il fait une infection urinaire et il est plus dispo pour faire la négo la plus importante peut-être de sa fin de carrière. Ensuite, il y a tout un petit bail, voilà, on choisit le président. Et ensuite seulement, il y a Gojo. Donc,
Il se passe plein de trucs, en fait.
Il se passe plein de trucs, ouais.
Et effectivement, pour moi, il y a aussi ce truc où Logan, enfin, l'état de santé de Logan le mec dépérit de plus en plus, quoi. Il y a notamment, effectivement, cet épisode complètement fou. Il a pas pris les bons médocs.
Il a pas pris ses médocs, hein, concrètement.
Il part en couille, quoi.
Ouais. Il a une infection urinaire qui, du coup, en gros, s'il prend pas ses médocs, et aussi il a 80 ans, il délire, il voit un chat mort, il appelle sa sœur. On comprend qu'il a une sœur décédée, donc c'est rien. Et ça,
Rose.
J'aimerais beaucoup savoir c'est quoi l'histoire, mais je pense qu'ils nous la diront jamais. Et toute la question, c'est à quel moment il a commencé à perdre la boule, parce que ça a fait au moins 10 ordres qu'il nous a donnés qui étaient contradictoires et qu'on suit. Ce qui peut être juste Logan, ou ce qui peut aussi être Logan a perdu la boule et du coup on sait pas ce qu'il faut faire, quoi.
Il a une aventure avec son assistante, et en fait tu te dis, non mais les gars, en fait, enfin, vous avez vraiment beaucoup beaucoup d'armes pour juste venir le piler, en fait, et lui dire, bon bah mec, t'es plus à la...
Oui, mais encore une fois, ça fait 3 saisons que Kendall il essaye et qu'il est toujours armé et qu'il a toujours l'impression d'avoir... un arsenal surdéveloppé et qu'en fait il suffit d'un bouchon sur le périph ou de juste Logan always wins, et il le prouvera encore à la fin de cette saison, infection urinaire ou pas, en fait, et à la fin il garde pas sa compagnie. C'est ça aussi, c'est que c'est un autre truc qu'a pointé Joanna Robinson, du coup, qui est critique série et qui débrief aussi Succession aux US, c'est que à chaque épisode de Succession et à chaque saison, elle aime bien se demander qu'est-ce que ça veut dire gagner. Et en fait, tu peux jamais gagner avec Logan parce que lui-même, il change tout le temps les règles de ce que ça veut dire gagner. Et par exemple, dans cette saison 3, la quasi-intégralité de la saison 3, le but gagner, ça veut dire la famille garde le contrôle de l'entreprise, de Waystar Royco. Et au dernier épisode, Logan, il décide de vendre Waystar Royco à Gojo. Et il finit en disant « I fucking win », mais parce qu'il a décidé que gagner, ça voulait plus dire la famille reste en contrôle, parce que ces gamins, ils sont là « Non mais désolé, mais nonobstant le fait que tu viens de rouler dessus, enfin... » What the fuck, tu vois, c'est quand même l'entreprise familiale et tout. Et lui, il est là, je m'en fous, j'ai gagné, je vous ai ken. Donc tu peux pas, c'est un peu le dicton qui dit, c'est comme jouer aux échecs contre un pigeon, tu vois.
Ouais.
Ça sert à rien parce qu'à la fin, il va chier sur le plateau et renverser les pièces. C'est pareil, c'est que le gars, il est là, face, je gagne, pile, tu perds. Tu peux jamais t'en sortir.
Ah ouais, et cette, bien sûr, cette fin de saison est extraordinaire. Et à vrai dire, moi, tout ce dialogue qu'il a eu, moi, à titre personnel.
Attends, quel dialogue?
Le dialogue qu'ils ont sur à la fin de la saison.
Alors attends, avant d'arriver à la fin de la saison, est-ce que t'as cru à un moment que les trois Roman, Shiv et Kendall allaient réussir à s'allier? Parce que pendant la saison, c'est une possibilité, notamment avec le fameux épisode des donuts. Avant les donuts, c'est une possibilité. Il y a même Connor qui est là, bah en fait peut-être, tu vois, peut-être on peut faire ça.
Parlons de l'épisode des donuts.
Qui a envoyé les donuts?
Qui a envoyé les donuts?
Qui a prévenu Logan?
Qui veut goûter les donuts en premier? Parce que, bah,
non.
Quand même, il empoisonnerait pas ses propres enfants, non?
Et même, ils disent pas, il empoisonnerait pas ses propres enfants. Ils disent, il enverrait pas des donuts empoisonnés là où ses petits-enfants habitent. Ils disent pas, il nous empoisonnerait pas nous. Il dit quand même, il a des petits-enfants. Il les voit jamais. Il y en a un qui l'a cogné la dernière fois qu'il l'a vu, mais.
Speaking of poison, ce moment où il vient bouffer avec Kendall en tête à tête et qui fait goûter.
Il appelle son petit enfant
au fils de Kendall, donc.
Qui est incroyable. C'est vraiment, ils ont dit, attends, ok, nous peut-être ils nous empoisonneraient, mais ses petits enfants non. Et à la fin de la saison, Logan, il est là, Watch me. Vraiment, viens, viens gamin, viens petit-fils. Qui, donc la grande question, c'est qui a dit à Logan que ses enfants étaient réunis chez Kendall, enfin chez l'ex-femme. Donc Kendall met son QG dans les appartements de son ex-femme, Rava, au début de la saison 3, quand il vient du coup de... Ah, plot twist, il a fait un gros discours MeToo et du coup maintenant il est là, oula, il faut trouver un QG, parce qu'il a pas anticipé qu'il lui bloquerait ses accès à Waystar. Le gars, il est arrivé, il a badgé en mode je viens de ruiner la compagnie, on va me laisser passer, enfin non bien sûr. Et il y a Shiv qui arrive en cachette. Pendant ce temps, il y a Roman qui est tasqué de va trouver Shiv et qui finit par arriver chez Kendall et trouver Shiv. Il y a Connor qui les rejoint et Logan leur fait livrer des donuts. Et c'est là qui fait, c'est ça qui casse le deal, c'est qu'ils sont, c'est Big Brother is watching you, tu vois, genre I see you, je vous vois, juste les donuts, ça suffit. Qui a prévenu Logan qu'ils étaient là?
Alors moi, je crois que c'est un coup de bluff et qu'en fait il le sait pas, mais juste il le fait livrer en mode, en fait, si jamais, tu vois. Parce que pour moi, en fait, tu peux pas être... Alors, t'as beau être Logan Roy, c'est-à-dire globalement une ordure, c'est obligé qu'à ce niveau, le mec ait aussi une intuition de maboule, quoi. Tu vois ? Et je crois vraiment que pour moi, c'est une intuition de Logan à ce moment-là de se dire, en fait, possiblement, j'arrive pas à les joindre et tout. C'est très possible qu'ils soient en train de me faire un coup dans le dos. Donc, je vais... Où est-ce qu'ils sont, sinon, chez Kendall ?
Bah, Kendall, il est pas chez lui, déjà. Il est chez son ex-femme. Ouais. Et mais tu peux te dire qu'il a envoyé des donuts à 25 adresses différentes.
Très possible.
En soi, tu shootes et tu vois ce qu'il prend. Moi, je pense que c'est Tom. Je pense que déjà c'est Tom, parce que c'est une des rares personnes qui sait. Parce que Shiv, elle est encore en mode c'est mon mari, elle lui dit les trucs, mais comme elle le fera jusqu'à la fin de la saison, et elle aurait pas dû.
C'est possible que ce soit Tom.
Et à ce moment-là, Tom, il fait partie de la team qui est restée avec Logan à Sarajevo, et je pense que c'est Tom. Parce que en plus à la fin de la saison 2, Tom et Shiv, ils ont ce dialogue déchirant sur une plage. Momo,
oh là là,
c'est Momo. Où Tom a cette réplique
Où
il lui
terrible.
Dit « Je sais pas si la peine que je ressentirais sans toi serait vraiment pire que la peine que je ressens à être avec toi. » Et t'es là « Bah, faut divorcer, vraiment, vous êtes mariés depuis genre 6 mois, quand on arrive à te dire ça, c'est pas bon. Faut rompre tout de suite. » Et ils rompent pas, et ils restent ensemble. Et pour moi, là, Tom, il est déjà en mode « Ok, je vais... » Pour moi, c'est lui qui... Mais c'est une théorie non confirmée qui est
possible.
Un peu réactivée par le fait qu'à la fin de la saison, bah, Tom, pour le coup, très clairement...
Là, on
et
le
c'était
sait.
Pas forcément prévu d'être aussi clair, mais enfin bref, on va en parler. Tom est très clairement tout quoi Mifili, c'est le Judas de Shiv. Donc est-ce que t'as cru que peut-être les frères et sœurs allaient s'allier et gagner? Ça fait depuis la saison 1 qu'il y a régulièrement des moments où ils se disent, en vrai, si on s'y met tous les 3 ou tous les 4, selon s'ils invitent Connor ou pas, on pourrait y arriver, et que comme tu dis, ça marche pas. Est-ce que t'as continué à y croire?
Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, il y a un moment où il faut vraiment faire en sorte d'explorer cette scénaristiquement, tu vois, il y a un moment où il faut faire en sorte d'explorer cette possibilité, et j'aurais trouvé ça vraiment relou que même tous
mon chat a choisi la pire place, elle a la tête quasiment collée à l'iPhone qui filme. Vous ne la voyez pas, mais elle est très bête.
Donc ouais, en fait, pour moi, ça aurait été pas normal que dans ce moment-là, là où ils se retrouvent en train de se faire niquer tous les trois par leur daron, tous les quatre, ils se disent pas « Ok, donc maintenant c'est le moment ou jamais parce que... » Tu vois, et qu'ils se disent...
Ah, tu parles du final?
Oui.
Ok, oui. De quand ils essayent de s'unir à la fin.
Ouais, bien sûr. Et qu'ils s'unissent.
C'était plus genre au fil de la saison.
Ah.
Est-ce que dans la saison 3, t'étais déjà un peu blasé de « Vas-y, c'est bon, ils vont essayer de s'associer, ça va pas marcher et tout. » Est-ce que tu t'es dit...
Non,
peut-être,
en fait
cette fois-ci.
Mais non, parce qu'en fait, ils ont aucun intérêt. Ils passent leur temps. Enfin, tu te souviens de cette fameuse discussion qu'il y a dans la chambre de la gamine de Kendall, où en fait
juste
ils sont incapables de se parler et de se dire, en fait, venez, on se. Non, parce qu'en fait, ils ont toujours une sorte de lecture en sous-texte de est-ce que t'es en train de me niquer ou pas. Et donc, forcément, ça peut pas marcher. Ils passent leur temps à analyser en permanence. Parce qu'en fait, ils ont grandi comme ça, ils ont été élevés comme ça, et que globalement, je crois que Logan a très très bien tissé sa toile avec ses gamins. Ils passent leur temps à partir du principe que l'un ou l'autre va venir les niquer, quoi. Enfin, je crois, en tout cas.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'ils sont difficilement capables de s'associer. Et en même temps, je trouve que je suis moi-même symptomatique de ce que Succession raconte, c'est que j'ai encore espoir, alors on en parlera après plus précisément de la saison 4, mais je me dis encore, peut-être que dans la saison 4, ils vont s'allier, peut-être que cette fois sera la bonne, parce que ça y est, genre, c'est vraiment trop tard, leur père, il les a vraiment trop maltraités, et ils vont comprendre pour cette fois, et peut-être qu'en fait, la saison 4, ça va être aussi, non, Logan, il va réussir à leur faire croire que toi, tu seras mon préféré, c'est la saison finale, donc peut-être qu'on va commencer à boucler des storylines, mais tu vois, j'ai toujours un petit peu d'espoir. Avant de parler du final de la saison 3, il y a un thème qu'on n'a pas abordé et qui, moi, me plaît beaucoup dans Succession, c'est la politique, qui arrive plus fortement à la saison 2 avec donc Connor qui décide de devenir président. C'est ma storyline préférée. Je suis désolée, mais Connor, c'est pas mon perso préféré, bah c'est pas le plus passionnant, mais c'est mon perso comique préféré. À chaque fois qu'il est là, je suis trop contente, je suis là, putain, Connor, il est trop gênant, c'est trop bien. Ouais. Et il est en même temps, il est ravi de la crèche, il met son vin dans des mixeurs, il s'en bat la race et tout, vraiment, Connor, il est là avec sa femme qui est un peu une escorte, mais il est là, ouais, tu m'aimes pas, c'est pas grave et tout, je l'adore. Et il y a ce thème politique qui arrive avec Connor, on a aussi, bah du coup, un présentateur d'alt-right sur ATN, qui est donc la chaîne de Waystar Royco, qui est quand même un plot point important. Il y a notamment tout un épisode qui s'appelle Safe Room où il y a un suicide sur les locaux de Waystar, mais ils pensent qu'ils sont attaqués parce qu'ils arrêtent pas de se faire insulter parce qu'ils ont embauché en gros, je sais pas, Alain Soral, tu vois, ou Julien Rochdy. Et il y a carrément dans l'épisode 3, dans la saison 3, cet épisode où ils vont choisir le prochain président. Donc la storyline, c'est que le président actuel est un républicain, que Logan méprise mais qu'il a globalement dans sa poche.
The Raisin,
qui a l'air d'être un peu Trumpesque, voilà. Mais on n'en sait pas beaucoup.
On comprend que c'est Trump en plus, pour moi.
Oui, bah ça lui va bien, en tout cas comme nom, quoi. Et qui est censé se représenter pour un second mandat, mais comme il est pas assez en défense, en gros, il veut pas... Désolé, j'ai viré mon chat de la table. En gros, il veut pas donner assez d'immunité à Waystar pour cette histoire d'enquête fédérale sur qu'est-ce qui se passe sur vos croisières. Et Logan dit, bah on va t'attaquer dans nos chaînes, on va dire qu'il perd la boule, qu'il est trop vieux et tout. Et du coup, le président décide, à cause de Logan, de ne pas se représenter, ce qui est à la fois genre, haha, on l'a bien ken, et à la fois... Alors c'est chiant parce que c'est bien quand on a le président des États-Unis dans notre poche. Du coup, ils vont à un genre de sous-congrès républicain ultra niche, genre les 1% des 1%, où le but officieux et assez vite officialisé, c'est littéralement, on va choisir le prochain président parce que la personne qui aura la majorité dans cette salle composée des gens les plus puissants et les plus riches des États-Unis, c'est la personne qui aura le pouvoir médiatique et financier d'accéder au pouvoir. Et donc on a plusieurs candidats possibles uniquement républicains qui se dessinent, et notamment Mencken, qui est un genre pareil de mec alt-right, un peu provoque, enfin hyper provoque, beau gosse, très... qui fait passer ses idées au début pour un truc de bon sens, et assez vite il parle de H, enfin il parle de Hitler en disant H, et il dit que c'est quand même mieux quand les gens qui nous entourent nous ressemblent physiquement, donc t'es là, oh non, c'est un gros arien en fait, qui a une scène bizarre avec Roman et tout. Moi j'aime beaucoup ce thème politique dans Succession, et j'espérais vraiment, si la saison 4 était pas la dernière, je me serais dit j'espère que ça va être la saison campagne présidentielle de Connor, parce que c'est ma passion. Là je pense qu'ils ont deux trois trucs à boucler. Est-ce que ça te parle, toi, ce thème? J'ai l'impression que c'est pas trop l'aspect préféré des gens qui regardent la série, mais moi j'aimerais trop... Un succession full politique, limite, je prendrais, tu vois.
Bah oui, bien sûr.
Mais genre, je trouve il y en a pas assez, quoi.
Mais le peu qu'il y a, ça fait plaisir.
Oui. Non, ça mais donne pas confiance dans les outils démocratiques, mais ça fait plaisir.
Effectivement, cette discussion qu'il y a dans une salle de bain entre Logan... Roman
et
ce mec-là, est complètement dingue. Et c'est là aussi, je trouve, où tu vois, les scénaristes, ils donnent un peu plus de kudos à Roman, où tu commences à comprendre qu'en fait Roman il pèse plus dans le jeu, et
il arrive à parler aux mecs bizarres,
voilà.
Et on est dans une société, dans une société où certains mecs bizarres, en fait tous les ultra riches qu'on rencontre à part, enfin, de la nouvelle génération, ils sont tous chelous, quoi. Tous un peu Elon Musk, un peu Zuckerberg, un peu autiste, un peu, alors hyper radicaux, enfin, t'as pas l'impression que t'as des businessmen normaux qui veulent juste faire des boîtes, ils sont tous un peu maboule, quoi. Et Roman, comme il est maxi maboule, bah, bon networking. Surtout dans les toilettes, hein, pas mal, parce que quand il rencontre Madson, donc joué par Alexander Skarsgård, qui est un genre d'Elon Musk, un peu moins, si c'est vraiment un genre d'Elon Musk en gros, suédois, c'est à l'anniversaire de Kendall, et il l'emmène dans les toilettes pour qu'ils pissent sur service de streaming, ouais, sur le téléphone de Roman, et je suis là, il y a des niveaux de symbolique freudienne à décrypter, là, il y en a pour deux semaines. Roman, on n'est toujours pas... Roman, il a ce truc d'impuissance, il a une
vie sexuelle... On ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie sexuelle
quand même
de Roman.
C'est très amené qu'il a été abusé sexuellement aussi quand il était petit, peut-être par un des amis de son père, et tout. Enfin, c'est très bresson.
Comment il s'appelle le mec qui meurt?
Mo Lester. Il s'appelait Lester, du coup on l'appelait Mo. Mo Lester, ça veut dire prédateur en anglais. Hein,
le daron, il le laissait pas aller dans la piscine.
Ouais. Non, il disait aux gamins, allez pas dans la piscine avec moi. Non, non, bien sûr, Mo, il fait ce qu'il veut.
Bien sûr.
C'est aux gamins de se protéger. Oui, et Shiv, elle dit, mais j'allais de façon pas dans la piscine, c'est que des mecs chelous, les potes de papa. Parce que oh déjà, tu fais... Et il y a un peu cette idée dans la saison 3, parce que dans cette discussion dans la chambre où il y a tous les enfants, dans la chambre de la fille de Kendall, un des trucs que Kendall y dit, c'est « on savait ». En fait, parce qu'il est toujours dans son truc de « j'ai fait la bonne chose, je suis un peu un champion de l'antipatriarcat et tout ». Bon, mais il dit en fait, enfin aussi, « on savait, on va arrêter de se mentir, on savait les conditions cheloues, on savait les meufs qui s'enchaînent dans la maison, on savait, enfin, on savait les gens qu'on voyait pleurer dans des coins ». Et Shiv, elle dit « moi, je savais pas ». Et je pense qu'à la fois, elle veut pas savoir, et aussi, bah, en fait, Kendall et Shiv, tu vois, quelques années d'écart, à cet âge-là, ça peut faire la diff entre tu comprends que t'as pas envie d'aller dans la piscine, ou tu comprends pourquoi t'as pas envie d'aller dans la piscine, tu vois. Parce que Connor, il est là, bien sûr, on savait, mais bon, Connor, il a 10 ans de plus
bah
que
oui.
tout le monde, quoi.
Et pour moi, c'est cool aussi de montrer à ce moment-là qu'il y a quand même, au sein de la fratrie, tu vois, une voix de la raison, et qui essaie de leur faire sortir de ce déni, qu'il y a une culture du secret dans la famille qui est complètement dingue, et tu sens que ça, voilà, ça remonte à un bail, quoi.
Bah, Logan, ouais, il y a des raisons pour lesquelles il parle pas trop.
Ouais, exactement. Et en fait, je trouvais ça cool qu'à ce moment-là, Kendall vienne dire non, mais en fait, il faut juste qu'on sorte la tête du seau et qu'on regarde ce que la famille a fait, quoi. Bon, voilà.
Et qu'on essaye de laver notre nom aussi, d'en faire quelque chose de positif. Après, c'est toujours à partir du moment où il dit. Et du coup, je pense que pour faire ça, il faudrait que je sois chef, que ses frères et ses sœurs, ils font « Yes, c'était ça !» Tout ce qui est dit avant. Et du coup, il faudrait que je sois PDG, ne compte pas, parce qu'en fait, tu veux juste être PDG. Ce qui est un peu vrai. Et en même temps, genre, peut-être les deux sont possibles. Peut-être il veut être PDG et il a pas 100% tort pour un mec qui a tatoué le front d'un SDF, parce que c'était marrant. Enfin, tu vois, c'est toujours ça aussi, c'est que t'es là. À quel point t'es vraiment une bonne personne?
Bah oui.
Genre, pas trop. Tu penses quoi de Roman Jerry? Quand même, du meilleur ship et de la dick pic, il faut qu'on parle du...
On va parler de la
Est-ce le couple le plus équilibré de Succession? Je ne sais pas.
La façon dont ça commence, on est bien d'accord que la première fois, c'est quand il va dans la salle de bain.
Ils sont chacun dans leur chambre d'hôtel séparée. Ils sont pas dans la même chambre d'hôtel, je crois. Mais il s'appelle, il lui fait, je sais pas, il me semble. Alors, celles et ceux pour qui c'est frère, redites-moi. Il s'appelle, ils se font je sais plus quelle forme de sous-entendu. Mais en fait, Jerry, elle l'engueule parce qu'il a raté un truc de taf, quoi. Il a merdé un truc de taf.
Et
sauf
lui,
qu'elle l'engueule.
Là, yes.
Et lui, il est là. Ouais.
Parle-moi bien.
Et c'est un peu genre.
Parle-moi pas bien.
Il y a, je pense, un champ contre champ que t'es là. Et après.
On l'avait pas vu venir, celui-là.
Ouais. Alors qu'en vrai, ça se tient de fou, tu vois. Genre, je suis là, enfin, en fait, je comprends, vu ce qu'on, le peu qu'on sait de Roman, qu'il y ait des trucs câblés où l'humiliation et être abaissé, ça l'excite. Qu'il y a un truc de figure maternelle aussi chez Jerry qui, bah, clairement, leur mère, elle les a pas élevés avec beaucoup d'amour, hein, Caroline. Donc, en fait, le désir est câblé bizarrement, et surtout quand on a été potentiellement victime d'abus, notamment dans sa jeunesse. Mais du coup, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de voir ça juste comme un truc de « Allez, Roman et Jerry !» parce que je suis là.
Oui, bah, c'est bien cringy, quoi.
Et il faut le dire quand même, côté Jerry se pose une petite question de consentement, de à la fois, certes, elle est très haut placée dans la boîte, mais elle est pas dans la famille, c'est le fils de la famille avec... Alors moi, je pars du principe que cette dynamique, elle se fait à deux... On peut poser la question de hiérarchiquement, enfin, en tout cas, si quelqu'un doit sauter entre les deux, ça va être Jerry. Et d'ailleurs, on le voit, quand Roman envoie la dick pic, c'est lui qui doit dire à son père, je suis vraiment pas un féministe radical, mais peut-être qu'on va pas punir Jerry parce que moi, je lui ai envoyé une dick pic. Et quand Roman, il fait une remarque anti-misogyne dans la saison 3 où il est ultra misogyne, c'est que tu te dis, ouais, c'est quand même une base, quoi. Donc pour toi, c'est inattendu, mais est-ce que, par exemple, est-ce que tu t'attends à ce que cette relation, elle continue dans la saison 4? Est-ce que pour toi, elle est finie depuis la dick pic? Est-ce qu'elle va un jour être concrétisée? Là, je pense qu'ils ont rien fait de physique, ils ont jamais concrétisé la chose.
Non.
Est-ce que tu t'en fous?
En fait, globalement, pour moi, je m'en fous parce que là, aujourd'hui, on est passé à autre chose, tu vois. Et d'ailleurs, en fait, Roman vient voir Jerry après le final, au moment du final, pour lui dire est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux faire un truc, et en fait Jerry, elle est là, ben moi je travaille pour les actionnaires et en fait
et ça te sert pas,
c'est quoi mon intérêt, voilà, il y a pas, voilà.
Ce qu'elle a essayé de lui apprendre toute la saison.
Exactement.
Il lui a dit en fait tout ce que tu fais, tu dois te demander il est où mon intérêt, et tu dois arrêter d'agir juste, en fait t'as des bonnes idées, oui, mais chaque idée tu dois la creuser un peu plus, avoir une bonne idée t'es pas obligé d'agir immédiatement. Bah typiquement le truc de j'ai trouvé un gars, j'étais avec Kendall il y a des années, il lui a tatoué le front et tout, on va retrouver la photo du tatou, c'est Jerry qui doit lui dire mais frère t'étais là aussi en fait, enfin, si tu dis Kendall il a fait ça, il va clairement dire que t'étais là aussi, donc tu vas couler aussi, donc maybe tu les gardes, c'est bien les avoir, Le gars, il a signé un clause de... Il va jamais en parler. Tu lui as donné 1 million, mais peut-être les balance pas tout de suite sur ouais. Twitter, quoi. Ok, on peut parler de la fin de cette saison 3. Je vais faire un petit point contexte parce que c'est frais et que je pense que c'est peut-être un peu confus, le contexte business. Donc le contexte business, c'est que Waystar, certes, est toujours aux mains de la famille Roy après un vote qui a été tendu, mais est quand même une entreprise média vieillissante qui a du mal à rester pertinente dans un monde qui change vite et qui cherche donc à acquérir un géant de la tech qui s'appelle Gojo, qui est voilà, un genre de méga Twitter, beaucoup de streaming. En gros, ils ont streaming, paris sportifs, jeux vidéo, enfin, méga conglomérat, quoi, qui est dirigé par Mattsson, du coup, un Suédois joué par Alexander Skarsgård. Et donc, à la base, c'est ça le deal. Roman, c'est le contact privilégié de Logan avec ce gars-là. C'est lui qui a réussi à lui mettre la main, lui graisser la patte. Mais plus ça va, plus Mattsson a l'air méfiant sur le deal. Il répond pas, il est pas là, il tweet des trucs bizarres et tout. Donc, pendant le nouveau mariage de la mère des enfants, Roy, Caroline Calloway, qui se tient en Italie, ils se disent, on va passer voir Mattsson dans sa maison du lac de Côme et voir ce qui se passe. Donc, à la base, Roman, il va tout seul. Il lui dit, mec, Tu vends toujours? On est ok? Tu nous vends toujours ta boîte? Et Mattsson, il est là. Peut-être c'est mieux de l'égalité. Donc Roman, il dit ok, bon, il veut pas vendre, c'est chiant. Donc il rentre et il dit il veut pas vendre, c'est chiant. Logan décide, viens, on va lui reparler quand même. Il amène Roman. Et là, il y a cette discussion où Mattsson dit, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est que. Donc Mattsson, déjà, il parle pas à Roman du tout. Il parle à Logan et il dit, ce qu'on pourrait faire, c'est que je te rachète. Et Logan, il est là, non. Et Mattsson, il fait d'accord. Et après, Logan, il dit à Roman, tu peux y aller, s'il te plaît? Et Roman, il est là, haha, bonne vanne. Après, il fait, tu veux vraiment que je parte? Et le gars, il fait, ouais, on va parler d'autre chose. De pas du tout ça, non, de je sais pas, de foot peut-être, mais sans toi. Au revoir. Et donc, au mariage, pas de nouvelles de Logan qui ne vient pas, pas de nouvelles de Mattsson, des nouvelles d'avocats, d'équipes légales qui commencent à arriver à droite, à gauche. Les enfants se rendent compte que leur daron est en train de vendre surtout, la boîte familiale à Gojo.
Roman est un con à ce moment-là parce qu'il ne prévient ni Shiv, ni Ken.
Oui.
Juste, il est toujours convaincu que papa va pas les en.
Bah, il croit encore qu'il est le préféré de papa. C'est la première fois que Logan, Roman, il s'est jamais encore pris la grosse porte. Ouais. Alors, il s'est pris des coups littéralement de Logan, mais il s'est jamais pris la grosse porte de papa m'a menti, je suis pas son préféré, quoi. Et du coup, les enfants Roy se rendent compte que leur père est en train de vendre la boîte et que donc, certes, ils vont probablement être milliardaires, mais qu'ils n'auront plus la boîte. Et ça, c'est inadmissible. Mais ils se disent, attends, c'est bon, si on est tous les trois d'accord pour voter contre, c'est bon parce que dans la procédure de divorce entre notre mère et notre père, elle nous a garanti à nous ses enfants une super majorité, en tout cas un vote important au conseil d'administration. Majorité qualifiée. C'est super majority en anglais. Du coup, si on arrive à convaincre Kendall qui est là tout de suite, peut-être il a failli mourir à l'épisode précédent, il s'est endormi dans la piscine, mais on va aller le voir, on va lui parler business vite fait. Et on va dire à notre père, qui est en train de faire un deal en douce, chabite, on a dit non, donc c'est non. Du coup, ils font ça, ils vont chercher Kendall, qui est là, ok, passionnant, guys, moi j'ai aussi tué un gars, donc là, c'est plutôt ma préoccupation, ils sont là, est-ce que t'as vraiment tué un gars? Il fait, j'avoue, vas-y, on va poutrer papa. Ils font, cool, on va poutrer papa, on y va tous ensemble. Et dans la voiture, ils sont là, on est ensemble, ok, genre, on fait un siège tournant de PDG, toi tu me kennes pas, toi tu le kennes pas, moi je te kenne, on se kenne pas, et t'es là.
Wow, this is happening depuis, on attend ça depuis 3 saisons.
Et là, je suis désolée, la seule personne qui est mariée, la seule gonzesse, elle se dit, je vais faire quoi? Je vais appeler mon mari pour lui dire. Parce que Shiv, elle croit toujours que Tom, elle peut lui raconter. En fait, elle l'appelle parce qu'elle est excitée. Parce qu'elle est là en mode, ok, papa, il va faire ça. Pour info, on est en train de foncer. On va l'arrêter. Et ça va être super. Et on va réussir à faire ci et ça avec Kendall, avec Roman et tout. Et Tom, il est là. Yes, c'est moi. Je suis où? Elle est là. Ouais, t'es dedans. Ouais, non, si, on a beaucoup.
T'es au top.
T'es quelque part en haut, là, voilà, c'est chiant. Et Tom qui a passé toute la saison à croire qu'il allait en prison et à avoir Logan et Shiv qui s'en battent la race. Donc,
Shiv, elle est tellement teubée ce coup-là. Elle est ridicule à ne pas être capable de se mettre en empathie par rapport à son mari sur qui elle se roule.
Incapable d'avoir des alliés. Ils sont tous tout seuls. Et je pense que c'est parce qu'ils sont, comme tu dis, incapables d'aimer normalement. En tout cas, ils savent pas faire ça, ils savent pas faire confiance. Tom prévient Logan, qui prévient du coup son ex-femme qui est en train de se remarier, et il dit à son ex-femme, si tu changes le fait que les enfants ont une majorité qualifiée, en gros on rouvre notre
convention de divorce,
merci, et on change des trucs. Toi, tu changes que les enfants ont un vote qualifié, donc ils peuvent plus m'arrêter. Et moi, en échange, je te file
un
super appart et je vais aider ton nouveau mari à avoir un titre de lord parce que j'ai des contacts à la couronne britannique. Et ça suffit. Et du coup, il y a ce moment horrible où la première fois que tu vois, tu le sais pas, quand ils arrivent, les enfants, que leur père, il sait déjà et qu'il a déjà gagné. Et il les laisse faire, il les laisse dire. Il est là. Genre, ils arrivent, il y a des avocats partout, ça tape des mails, ça imprime des paplards et tout. Ils sont là, bah alors les avocats, on bosse sans nous. Ils sont grave chauds, ils ont trop la conf et tout. Et ils arrivent et ils font tout leur truc en mode, dad, non, Totally Spies, limite, ils se mettent dos à dos en mode, ils ont une choré et tout. Et plus ça va, plus t'es là. C'est long. Et Logan n'est pas très inquiet.
Bah, c'est que Logan, il les laisse parler en fait. Il dit, ok, est-ce que vous allez vraiment me trahir tous les trois? Il prend Roman à part d'ailleurs.
C'est le premier qu'il essaye de prendre.
En lui disant, en fait, laisse les deux connards là, tu vois, vraiment. Et
D'abord, il lui dit sortir Kendall.
Dégager Kendall et en fait.
Il regarde même pas Kendall, il dit pas son prénom. Ouais. Il dit, vous le sortez lui, j'ai pas confiance en lui. Et après, je vous explique le deal, vous avez des belles places et tout, genre, tranquille. Et là, Roman, il dit, parce qu'ils l'ont briefé dans la voiture, ils étaient là, Roman. Papa, il va essayer.
Tu connais pas.
Ça
hein.
Marche toujours sur toi. La dernière fois, il t'a dit tu renifles ton aisselle et t'as dit oui, je reniflais mon aisselle et c'était chiant. Mmh. Donc vas-y, cette fois-ci, t'es avec nous. Et il est avec eux. Mmh. Il y arrive. Il dit, je pense que c'est bien si Kendall aussi, il entend ce qu'on a à dire. Et après, Logan, il va lui dire, fils, viens avec moi. T'as une bonne place qui est, je pense, c'est vrai. Parce que même Madson, il a dit, Roman, il est intégral. Coucou, Joe Coco, merci pour le sub. Il a dit Roman, il est intégral à la réussite de cette transition, de cette acquisition et tout. Donc Roman, il aurait pu jump ship et se sauver lui-même, mais il a décidé de tenir bon. Et ça marche pas sur Shiv non plus. Et au final, ils sont tous les trois unis contre leur père.
Et là, il sort les gros guns.
Il sort la carte piège.
Il sort le coup de fil à la maman. Qui, oh mais non, mais là déjà c'est trop pour aujourd'hui, hein. Laissez-moi tranquille.
Ah, elle est fatiguée, ça l'emmerde de parler à ses enfants, surtout qu'elle sait qu'elle a fait de la merde. Et je pense qu'il y a un peu la vibe dans cette scène, parce que, alors, il n'y a pas que le père et les enfants dans la pièce, il y a Jerry, il y a Carl, il y a Frank qui sont en train de bosser, enfin il y a tout l'entourage proche qui est là et qui assiste à ça, et qu'on oublie un peu parfois tellement la scène elle est intense, mais en fait ils sont là avec leurs ordi en mode bonjour. Et en fait la vibe c'est tout le monde est gêné en mode c'est cruel, tu vois. Genre, frère, t'as déjà gagné, c'est quand même tes gosses, tu vois, t'es pas obligé de leur rouler dessus. Et ce que j'avais lu au moment de la sortie de cet épisode, c'est qu'ils avaient tourné pas mal de versions de la fin, où notamment, il y a une version où bah, l'entourage est hyper content, tu vois, en mode « Ah, chais, les sales gamins et tout ». Un autre où ils sont vachement plus... bah parce qu'il y a peut-être un peu aussi un côté, c'est des gens qui ont bossé des décennies dans cette boîte et qui voient des gamins « Chive, elle a jamais travaillé pour la boîte et elle pense vraiment que c'est indu pour elle, tu vois ». Je pense qu'il y a un truc de... Ça leur fera la bite, tu vois, nonobstant le fait qu'ils leur facilitent pas le boulot parce qu'ils arrêtent pas de faire n'importe quoi, ça fait plonger les actions de la compagnie et tout. Mais c'est pas la voie qu'ils ont choisie. Ils ont choisi la voie de ces gens-là, ils sont quand même en empathie, et notamment Jerry qui a cette relation privilégiée avec Roman, mais qui est aussi la marraine de Shiv, par exemple. Enfin, c'est aussi un rôle féminin assez important dans sa vie, qui sont là, genre, mec, t'es pas obligé de mettre du gros sel, en fait. Enfin, c'est pas très cool, quoi.
Et ce moment où Roman lui dit... Mais en fait, tu peux pas nous faire ça, papa. Et lui, il lui dit, mais pourquoi? En fait, il dit, c'est quoi dans tes cartes? Qu'est-ce que t'as
oui,
à venir
moi j'ai
donner
un deal,
en échange,
c'est quoi toi, ton marché?
Et, de l'amour? Il fait, de l'amour?
You come at me with fucking love?
Il dit, quand tu te rends compte, en fait, que ton gun, c'est des saucisses?
Oui, c'est ça aussi, c'est qu'il a pas 100% tort, où il dit, bah là, ça t'arrange bien de jouer la carte de l'amour. T'es arrivé pour me planter, c'est juste parce que t'as perdu que tu joues la carte de l'amour, mais en même temps, bah, c'est pas comme s'ils avaient pu la jouer en premier, ça aurait jamais marché la carte de l'amour, quoi. Et il leur dit aussi une phrase que je trouve assez importante parce que, donc Kendall est là, et en fait Kendall il est semi-détaché. Il est pas autant à fond qu'il l'a été dans ses autres tentatives d'OPA hostile personnel sur son père, parce que vraiment il y a 10 minutes il était là, hé, peut-être je vais juste me suicider, c'est ok, tu vois, laissez-moi tranquille, je vais aller vivre ma vie. Et aussi, il a eu un tête-à-tête avec son père où il lui a dit, ok, j'accepte ton offre, rachète mes parts, je me casse, et son père lui a dit, prank, pas du tout. Je vais te garder à côté, tu vas lire mes mails. Vraiment un connard, bref. Donc il a, en plus, il a pas de sortie, quoi. Il a pas de porte de sortie de cette situation. Et Kendall, il parle à son père et lui dit, mais en fait, enfin, désolé, mais tu vas vendre, parce que Logan, il dit, c'est le meilleur deal, ça va être genre des milliards et tout. Et Kendall, il lui dit, ok, mais tu vas faire quoi tes milliards? Tu vas les mettre sur la pile avec tes autres milliards? Et Logan, il dit oui. Et ses enfants, ils disent, et nous, on fait quoi? Et ils disent, faites votre propre putain de pile, en fait. Moi, je l'ai construite, ma pile. Qu'est-ce que, et c'est là où je pense qu'il y a un côté un peu whiplash, tu vois, un peu daron, genre, faut se faire soi-même, sur lequel je suis pas sûre qu'on est 100% aligné, où je suis d'accord avec lui d'une certaine façon, mais peut-être un peu moins que toi.
Alors moi, globalement, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'avoir la pression pour laisser un héritage à mes enfants, parce que ça me met de la pression, en fait, au quotidien. Et que, globalement, j'ai pas envie de me flinguer la vie, ou peut-être le peu de vie qui me reste, parce que peut-être tout à l'heure je meurs, tu vois, à me dire, ok, je vais me sacrifier pour mes enfants, là où j'ai la sensation que je suis en train de leur donner des armes plutôt que juste de l'argent qui va leur tomber à un moment donné de façon. Et en fait, globalement, la question de l'héritage, c'est une vraie question qui dépasse juste un petit peu est-ce qu'on est pour ou contre ça.
Attends,
c'est...
histoire de daron, histoire d'argent, histoire de succession.
Ouais.
Eh, ouais. Je te le donne. Hein.
Mais j'ai fait 3 épisodes sur l'héritage dans Histoire d'argent et c'est toujours passionnant parce que t'as à la fois ce truc de ok, en fait, j'ai beau ne pas avoir d'argent aujourd'hui, je sais pertinemment qu'à un moment ou à un autre, il y a une pile de thunes qui va me tomber sur le coin de la gueule. Alors moi, je crois que de mes parents, j'aurais pas grand-chose parce que, bah voilà, ils sont pas très riches.
Et en même temps, tu sais que cette pile de thunes, alors ça dépend des relations que t'as avec ta famille, mais a priori, elle te tombe sur la gueule parce que des gens proches de toi, en tout cas, même en termes de, juste en termes de sens, sont morts. Donc c'est aussi ce truc de, oui, ton héritage, tu sais qu'il va tomber, mais à quel prix, tu vois. Et bah, il y a cette phrase dans House of the Dragon où il y a un petit gamin à qui un lord dit « Mais un jour, tout ça sera à toi, tu vas hériter de tout ça. » Et le gamin, il dit « Mais le jour où j'hérite, ça veut dire que vous êtes tous morts. » Donc j'ai pas envie de ça, quoi. Et c'est un poids, c'est déjà compliqué, même si c'est un rapport sain avec la mort, avec tes parents, que t'as un petit peu d'héritage qui peut tomber, tu vois. Genre moi, mes parents, ils sont propriétaires d'une maison, je pense qu'ils ont un peu d'argent, donc je vais pas avoir rien quand ils meurent. Mais bon, le jour où j'aurai quelque chose, c'est qu'ils sont tous les deux morts et je suis là-bas à choisir. Je préférais qu'ils soient pas morts, je pense.
Après, tu vois, je comprends que Logan se dise « Ok, en fait, à un moment donné, vous avez 30, 35, 40 ans. Démerdez-vous, en fait. » Tu vois, j'ai la sensation... Enfin, il peut avoir la sensation d'avoir... Alors certes, avec plein de fuckeries et toute la fuckerie du monde qu'il a foutu sur ses gamins, etc. Mais en fait, quand même, en termes de patriarche... Il a pourvu, quoi. Tu vois, il a fait le job.
Mais qu'est-ce que ça veut dire provide, quoi? Bah, il aura provide les hélicos et les vacances aussi.
À l'ancienne, tu vois, en mode le chasseur.
Et puis il leur a donné ce que lui, il avait pas aussi.
Exactement. Là où tu peux te dire, bah, en fait, du point de vue de Logan, peut-être qu'il peut se dire, OK, j'ai fait le job, en vrai, parce que je suis arrivé et aujourd'hui, mes enfants, ils manquent de rien. Et donc, à un moment donné.
Il leur dit assez clairement une fois ou deux, genre,
Tu vois.
Ça va, votre vie, c'était pas trop dur. Et même, bah, dans cet épisode, Connor, il dit à Kendall, ouin ouin, ta cuillère en argent, elle était pas assez brillante. Connor, qui lui-même est né dans cette famille hyper riche, mais en gros, Kendall, il dit, vous rendez pas compte, quand tu crois que papa, il croit en toi et que toute ta vie, t'as cru que t'allais faire ça et qu'on te l'enlève. Et Connor, il est là, mec. En fait, fut un temps, j'étais moi le fils aîné. Et vous êtes arrivé et il dit, j'ai pas vu papa pendant 3 ans quand vous êtes arrivé. Genre, tu sais pas, tu vois. Genre, papa il m'aime pas assez, bah vas-y, grandis, tu vois. It's not about you, quoi.
Et après, ça en dit long, je trouve, sur notre propre rapport à l'argent, où on peut avoir la sensation que, en fait, quand on a de l'argent, ça règle tous les problèmes. Mais en fait, l'argent ne t'achète pas le bonheur, quoi qu'il arrive. Il te le facilite et
ne pas en avoir, ça crée du malheur.
Il te lubrifie grandement, quoi, l'argent. Mais effectivement, quand t'es né dans une famille toxique avec un daron complètement fou, bah t'as beau avoir tout de la thune du monde, à un moment donné, ça t'achète pas de l'amour de papa, quoi, tu vois.
Et ça t'achète pas la capacité à vivre sans l'amour de papa et à juste dire, ok, bah je coupe les ponts, il m'aimera pas. Là où je trouve que Logan, il est injuste pour changer et toxique pour changer là-dessus, c'est que il leur a jamais vraiment appris à faire leur propre pile.
Oui,
il les a modelés comme ça, il les a gardés dans son orbite. Tu vois, Shiv, c'est la seule qui avait un peu une carrière et tout. Bah, il l'a arraché à son monde politique en lui faisant miroiter, tu vas être PDG. Bah, en fait, prank, pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il a été sérieux à un moment? Est-ce que tu penses qu'il y a une des fois où il a dit à Shiv, c'est toi qui étais réel?
Non. Pour moi, il joue en permanence entre les trois, en fait. Et je crois qu'il a toujours fait ça.
Je pense qu'il y a un peu de lui qui à chaque fois se dit... En fait, je pense qu'il y a un peu de lui qui préférait quand même que la boîte aille à un de ses enfants, parce qu'il y a un truc très narcissique, tu vois, c'est mes enfants, c'est moi qui les ai faits, c'est littéralement mes gènes et tout. Donc je dis pas que c'est altruiste. Et je pense qu'il a une partie de lui qui espère qu'un de ses enfants soit à la hauteur, c'est juste que il est pas capable de réconcilier ça avec le fait qu'il est incapable de lâcher prise et de ne pas se sentir menacé dès qu'un de ses enfants semble être à la hauteur. Oui. Mais pour moi, il y avait une petite forme de sincérité. De à un moment, il dit à Shiv, tu vois, tu vas faire quelques années dans la boîte, un an ici, deux ans là, le temps de te faire la main et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une partie de lui qui y croit. Je pense pas qu'il est là à se frotter les mains en permanence en mode « je lui mens ouais. » et tout. Mais je pense qu'il est prompt à lâcher l'affaire quand même.
C'est l'un des trucs aussi qui est compliqué quand t'as une boîte, c'est que tu te dis « ok, bah, je suis fondateur d'une boîte, à un moment donné, je voudrais mettre un ou une DG à ma place. Bah, » c'est super dur de recruter la personne qui va venir te remplacer parce que, en fait, tu te dis « non mais personne n'arrivera à faire ce que je suis capable de faire. » C'est un truc qui est vraiment très très compliqué de te dire « bah, forcément, s'il y a quelqu'un qui arrive à faire aussi bien ou mieux, bah en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi ? À quoi je servais depuis tout ce temps ? Donc, il y a un vrai truc égotique aussi qui est...
Un peu comme ce truc de parents, une fois que tes enfants ils sont grands, qu'est-ce à quoi que tu je sers s'ils sont qu'est-ce indépendants,
que tu
quoi.
C'est que, comment tu gères le vide ?
Mais je pense qu'il y a aussi un truc, alors, un peu moins égotique de... je veux pas filer ma boîte à quelqu'un qui va la gâcher, tu vois, c'est quand même l'œuvre d'une vie. En plus, pour Logan, c'est vraiment une transformation de vie totale. Enfin, il est parti de rien, quoi. Donc, je pense qu'il y a...
Oui.
Aussi son héritage de, bah, il y a quand même des marqueurs de, bah, il y a cet épisode d'Undie, l'épisode du rap L to the OG où il a une célébration dans sa ville natale. Alors bon, il a pas envie d'y aller parce qu'il a pas envie de se rappeler de ses racines. C'est aussi la ville où Brian Cox a grandi pour de vrai.
Oh.
Ils ont mêlé un petit peu la réalité et la fiction. Et, voilà, il y a quand même des marqueurs de, c'est un, et il parle de, quand il est arrivé aux États-Unis, les titans de l'industrie, il dit c'était ces géants qui sentaient le lait et l'or.
Et l'or.
Et il a cette idée voilà très mythique et je pense qu'il a envie de faire partie de ces géants mythiques, tu vois, de l'industrie et du business américain et qu'il a pas envie de laisser sa boîte à en vrai Madsen, je pensais pas qu'il lui vendrait sa boîte, mais il est malin et j'ai hâte de le revoir pour le coup Madsen. Mm. All right, est-ce qu'on a fait le tour de la saison 3 ? Non, la trahison de Tom. Le dernier plan de la saison 3, c'est pas la trahison de Caroline et l'échec des enfants, c'est Shiv qui voit Tom, qui voit Logan faire poser une main sur l'épaule de Tom en passant en mode merci. Et lui ne sait, Tom ne sait pas que Shiv l'a vu. Donc Shiv a une carte dans sa poche qui est je sais que c'est Tom qui m'a trahi. Je crois que c'est la seule des enfants à l'avoir vu parce que ils ont tourné plein de versions différentes de cette scène. Une où tout le monde voit que c'est Tom, une où personne le voit, une où Shiv le voit et il voit qu'elle l'a vu et tout, et au final ils ont gardé Shiv sait que c'est Tom, Tom ne sait pas que Shiv sait, je crois pas qu'Yandal et Roman y savent, donc qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Et Tom a rallié Greg à sa cause avant d'aller trahir Shiv en lui disant
veux-tu signer un pacte avec le diable?
Oui, qui a besoin d'une âme dans tous les cas, et il l'appelle directement Sporus, littéralement, ouais. Et c'est dans cette scène où je t'ai dit, tu vois, le langage corporel de Matthew McFadden dès qu'il est avec Nicolas Braun du coup qui joue Greg, c'est vraiment Naokis, quoi, roulez-vous des pelles, ils sont là au mariage, penchés l'un contre l'autre, assis en train de se faire des confidences en se regardant avec une intensité folle, je suis là. Et Greg, il ne sait pas de quoi il parle, hein. Tom, il est là, il se passe un truc, tu vas être dans ma team, et Greg, il est là, je suis là, mais calmez-vous, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'attends de Shiv et Tom dans la prochaine... Qu'est-ce que t'as pensé de cette trahison? Est-ce que t'avais compris que, ok, si Logan, il sait que Tom, il les a trahis? Moi, j'aurais pas déduit, je pense, hein, honnêtement... S'ils n'avaient pas montré la collade sur l'épaule de Tom, je pense pas que j'aurais compris.
Ah bah si.
C'est Tom qui a dit à Logan qu'ils arrivent, du coup, Logan a eu le temps de s'arranger avec Caroline. Tu vois.
Ah mais si, parce que quand.
Les donuts, j'avais pas compris au début. Ah. Mais on n'est pas d'accord sur les donuts.
Ah, sur les donuts, à vrai dire, je l'ai pas, mais oui. Là, t'as quand même cette discussion de est-ce que tu veux signer un pacte avec le diable ? Enfin, tu vois, c'est vraiment
oui,
le dinoir.
Mais en vrai, là, c'est le moment où Shiv vient de dire à Tom, on va renverser mon père. Donc tu peux dire, Tom, il est en train de dire à Greg, on est en train de renverser Logan, viens avec moi, tu vois.
Alors, moi,
et
je
le diable,
pas...
c'est lui, c'est pas Logan.
Moi, je l'ai pas du tout compris.
Je crois que comme la ça. Première fois, j'ai hésité, tu vois, j'étais là.
Moi, je me suis juste dit, en fait, le mec lui dit, et moi, où est-ce que je suis? Enfin, tu vois, c'est vraiment son premier truc en permanence, c'est, et moi, où je suis? Et en fait, Shiv, elle en a tellement rien à foutre, ouais. Elle balait ça comme ça, sans prendre une seule seconde soin de son mec, en fait, clairement. Moi, je me suis dit, mais c'est sûr et certain, en fait, que l'autre, il va, n'oublions pas, il le dit à un moment donné dans cette fameuse discussion avec Kendall. En sortant du fameux diner, là, en fait, c'est prophétique. Il le dit. Il dit, en fait, Logan s'est jamais fait niquer. Et en fait, je crois qu'encore une fois, tu vas perdre. Et il le dit. Enfin,
bah,
tu vois, tout est écrit.
Hein. Il est sur le bon cheval.
Exactement. Il y a un moment donné où vraiment, Ken part du principe que Tom a choisi son camp depuis longtemps.
Et comment t'interprètes le fait que la seule question un peu précise que Greg lui pose, c'est est-ce que j'aurais le droit d'avoir mon propre Greg ?
Parce
que moi j'ai trouvé genre ma boule quoi, j'étais là ah ouais, à quel point il est conscient. Enfin, c'est bizarre de le verbaliser, tu vois. J'étais là. Donc, il est conscient du fait qu'il est le semi-esclave, semi... Enfin, ça veut dire quoi, mon Greg ? Et Tom lui dit, tu pourras en avoir 20 si tu veux, tu vois. Et je suis là... Eh, vous êtes chelou, voilà.
Ah bah oui.
C'est bizarre.
Oui, bien sûr. Non, en fait, pour moi, c'est juste la continuité de leur... leur relation, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir le droit moi d'avoir des enfants après comment dire et d'avoir la même relation niquée avec toi oui. avec une sorte de sbire quoi de la même façon.
Oui, est-ce que je pourrais moi aussi maltraiter, ouais. et groomer et modeler quelqu'un? On a vu Tom être très cruel aussi avec d'autres employés, il a quand même utilisé un subordonné comme repose-pied à un moment.
Comme table basse ou
comme repose-pied, non, il a vraiment ses pieds dessus. Il y a eu toute la scène où du coup il y a le lockdown à Westeroico où Tom clairement il court en disant excusez-moi c'est la direction pour aller en premier dans le safe room parce qu'il croit qu'il va se faire tuer. Et bah Greg c'est la saison où il porte plainte contre Greenpeace quand même et où
oui.
hop maman on s'en va oui Bernard on s'en va où tu viens là si tu veux elle veut monter sur la plante c'est pour ça que je surveille. Greg c'est la saison où il intente un procès à Greenpeace et où il se fait fêté sur les épaules des mecs de l'alt-right au congrès républicain des
séquence.
Néo-nazis quoi. Donc ils sont là en mode Greg, fuck Greenpeace, t'es là. Are we one of the bad guys? Maybe Greg.
Ouais. C'est vraiment le fruit du mal quoi.
Yes, horriblos. Ok, donc c'est là qu'on en est dans Succession. Je pense qu'on a fait le tour de ces trois saisons. On est potentiellement sur une saison 4 qui va commencer avec la famille Roy qui n'a plus les pleins pouvoirs en tout cas sur la firme Waystar Royco, sur peut-être 3 enfants Roy, voire 4, si on inclut Connor, on sait pas trop où on en est Connor, qui vont peut-être être unis contre leur daron, mais tu vois, je me sens bête en disant ça parce que j'ai l'impression que ça fait 3 saisons qu'on croit ça, que ça arrive pas, donc je me dis, est-ce que je reflète le message du show en continuant à y croire alors que les traumas c'est cyclique et qu'on n'en sort pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'attends pour cette saison 4 de Succession ?
Bah pour moi, déjà, le début de la saison, ça va être un peu la transition. Ça va être très intéressant de voir comment tout ce petit monde finit par intégrer la boîte, comment ils finissent par intégrer aussi ce nouveau perso, j'imagine, qui va être là.
Madson. Je pense qu'il va être là moins qu'on le croit.
Okay.
Je pense qu'ils vont... Et pas en mode Alexander Skarsgård, il est cher et tout. Genre, ils ont clairement du budget. Mais je pense qu'ils aiment bien distiller leur guest star et que là, ils vont être assez resserrés sur la famille parce que c'est la dernière saison, il y a 10 épisodes. Il y a quand même, tu vois, moi, j'espère qu'on on en parlera, mais il y a quand même pas mal de storylines à boucler, j'ai l'impression. Quoi.
Et en fait, je me demande surtout quel va être le rôle de Logan une fois qu'il aura vendu. Parce que est-ce qu'il se barre ? Est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il fait après ça ? C'est très intéressant ça va être intéressant de voir un petit peu comment il décide de le faire naviguer dans ce nouveau truc. En fait, ce sera plus sa boîte.
Ouais, mais il sera toujours potentiellement en position de pouvoir sur toute une partie de la boîte, mais ce sera plus sa boîte. Et j'ai hâte de le voir pour le coup en joute business avec Madson, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de faire, mais on sent qu'ils ont du respect l'un envers l'autre. Et Madson, il lui dit dans la même phrase. T'es un vieux croulant, un dinosaure complètement à la ramasse, et en même temps, no disrespect, genre t'es une légende, tu vois, mais juste...
Je respecte la longévité, quoi, je crois, tu vois, il est vraiment dans ce truc de...
Et il lui dit un truc genre, you're a fucking shark, il y a aussi, je respecte l'agressivité,
le
tu
tueur.
Vois, t'es pas devenu, c'est de tueur à tueur, on se respecte. Et au milieu, t'as Roman avec son café en mode, so
putain,
guys, t'es là, ouais,
c'est
le seul qui prend un café.
Il prend un café,
et
après il court
arrive
après.
Avec le plateau, et les deux, ils sont là, genre même pas, ils lui parlent, ils sont là, pas de café, et Roman, il fait, moi, je veux bien un petit kawash. C'est comme Shiv au dîner.
Oh là là.
Dans le doute, c'est comme ça que j'ai négocié mon anxiété sociale toute la vie. Quand tu sais pas, tu regardes les autres et tu fais pareil qu'eux. Donc là, ils prennent pas de café, tu fais le grand garçon et tu prends pas ton petit kawa. Bref.
Et toi, t'attends quoi ?
Beaucoup de choses. J'attends que j'aimerais beaucoup que Marcia revienne. Je pense que j'y tiens pas mal. Je trouve que le personnage de Marcia a été un peu... Alors, soit surécrit, soit sous-écrit, mais je trouve qu'elle était trop prometteuse pour ce qu'ils en ont fait, parce qu'il y avait toute une aura de mystère, il y a tout un moment où Shiv, elle lance une enquête de détective privé sur elle, et elle est là, genre littéralement, la go, elle a popé à 35 ans. On sait pas où elle était avant, elle est libanaise, mais aussi française, elle a un fils qu'elle place chez Waystar, elle a de l'argent, on sait pas où, et je suis là, grave cool, et aussi, je trouvais ça très cool que Logan ait une compagne de son âge, peut-être pas, mais en tout cas, pas une petite jeunette, ça change après. et qu'il a l'air de respecter intellectuellement et tout. Et j'aimais bien la relation Marchia-Shiv dans une série qui manque quand même un petit peu de relation entre deux femmes, oui. Puisqu'il n'y en a pas tant. Et je suis déçue que Marchia soit sortie de la série à la saison 2 pour quasiment pas revenir. Donc j'espère un petit peu qu'ils lui redonneront une place. J'espère qu'on verra la campagne présidentielle de Connor et que peut-être que ça sera ça aussi le projet de Logan, tu vois. C'est... Bah, j'ai plus autant de trucs à faire à ma boîte. Si je peux faire de mon fils le président des États-Unis, ça m'assure de garder du pouvoir. Parce que on sait que c'est plus l'argent derrière lequel il court, c'est le pouvoir, tu vois. Donc là, Logan, il sacrifie un peu de pouvoir pour de l'argent. Où est-ce qu'il va en retrouver? Bah, ça va peut-être être dans cette... Bon, il y croit pas trop à la campagne de son fils, mais il a quand même des chances de gagner. C'est pas 100% impossible. J'ai hâte de revoir Mencken, le fameux candidat néo-nazi que les Roy ont choisi de pousser, parce que ça aussi, je pense que ça va être... En fait, surtout s'il affronte Connor. Ça va être marrant de voir Connor se rendre compte que vraiment son daron va pas être dans sa team. Whatever happens. Et j'attends une forme de clôture. J'ai un peu peur, je t'avoue, qu'ils se perdent dans les différentes storylines. Et je trouve que c'est... Et je vais pas être en mode il y a qu'à faire ça parce que je saurais pas finir Succession de façon satisfaisante. Et notamment pour moi, il y a vraiment deux fins. Il y a soit les enfants ils se libèrent de Logan d'une façon ou d'une autre, soit ils se libèrent pas. Et pour moi, ça a même rien à voir avec est-ce que Logan y meurt ou pas, parce qu'il peut mourir et eux ils sont toujours sous son emprise.
Souvent, ça aide, hein.
Oui, mais et ils vont finir par s'en libérer. Mais tu vois, genre, s'ils ont pas coupé les ponts, posé une balise ou je sais pas quelle métaphore utiliser avant qu'ils meurent, sa mort va pas changer le fait qu'ils ont une relation fucked up à leur père, à la vie, entre eux et tout. Donc, qu'ils meurent ou pas, pour moi, l'important, c'est est-ce que les enfants Roy arrivent à se libérer de leur malédiction familiale ou pas? Et je pense pas. Mon pronostic, c'est il y a pas de happy end à Succession. Je pense que Kendall, il meurt pas. Et je pense que c'est un peu triste parce que je sais pas ça va être quoi sa vie. Mais je pense pas qu'il meurt, tu vois. Ça fait 3 saisons qu'on est là. Vraiment, le gars, il est pas loin du suicide. Il y a un énorme thème suicide autour de Kendall et mort. Est-ce que tu penses qu'il meurt, Kendall, dans la saison 4?
Je me demande, en fait, s'il meurt, à quel point ça peut faire bouger Logan. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment...
Oh, ce serait tragique.
Est-ce que ça serait un déclencheur, tu vois, de... Ok, en fait, tout ça pour ça.
Mais j'y ai cru un peu, parce qu'il y a cette fin d'épisode, d'avant-dernier épisode dans la saison 3, où Kendall s'endort dans la piscine. Et en vrai, il y a pas mal de gens qui avaient douté, genre...
Ouais.
Ça y est, il est mort, ouais. Parce que c'est l'épisode où il dit à Logan, je veux sortir de la boîte, et Logan lui dit non, et lui rappelle la mort du serveur. Donc tu te dis, le gars, il a cash out, quoi. Il peut pas sortir de cette situation, il se suicide. Finalement, non. Mais je m'étais dit, ah... C'est peut-être ça qui, effectivement, là, Logan, comment il réagit quand Kendall il suicide ou qu'il meurt, j'en ai aucune idée, quoi. Je sais pas du tout.
Bon, après, moi, j'aimerais bien qu'il meure, Logan, tu vois, tout
simplement. Ouais, faut mourir, monsieur.
Il faut...
Ça fait depuis la saison 1, ça s'appelle Succession, quand même.
Il faut juste le buter.
Tu penses qu'il meurt, genre, épisode 1?
Non.
Ok.
Non, sinon c'est trop... Non, parce que ça voudrait dire... C'est... Ou alors, vraiment, il s'est passé un an...
Non. Ah oui.
Ou alors il s'est passé un an et en fait...
Moi je pense qu'on va reprendre assez vite après la fin de la saison 3, c'est une série qui va vite, Succession, et qui au final se passe sur... Il y a moins de temps qui s'est passé dans l'intrigue que de temps qui s'est passé dans la vraie vie, je pense, donc on va aller assez vite.
Après j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à boucler la série, quoi, tout simplement, tu vois, pour moi, ça serait vraiment... dramatique qu'ils arrivent pas à boucler les storylines et parce qu'en fait il y a 10 épisodes.
Ouais, je pense sur la saison 3 il y en avait 9.
Je sais pas comment ils peuvent faire, tu vois, je sais pas comment ils peuvent faire pour boucler cette série correctement en 10 épisodes parce que il y a vraiment...
Après, pour moi, s'ils se concentrent sur la relation Logan et les enfants qui est finalement le cœur de la série, ils peuvent ok, on va dire bye à Marcia, on va probablement dire bye à une partie des pans politiques qui sont pas le cœur de la série,
ouais,
même si
vois,
je les aime bien.
Cette histoire de Mencken, là, on s'en fout, en fait. Tu vois, pour moi, c'est vraiment... Oui, je sais que ça te rend triste, mais en fait, pour moi, c'est pas important.
Oui, c'est pas important. C'était plus un commentaire sur le monde et sur Roman qu'une vraie storyline.
Oui.
Si Jerry et Roman, c'est fini, c'est pas grave, tu vois. Enfin, si on revoit jamais cette intrigue, c'est pas très grave. C'est la dernière saison, donc autant aller à l'efficace pour avoir une fin satisfaisante au cœur de Succession, qui est cette histoire shakespearienne sur un roi en déclin et ses enfants qui seront peut-être jamais dignes de sa succession, mais qu'il va bien falloir que quelqu'un lui succède un jour, car l'amour est inéluctable. Bienvenue dans le podcast Feel Good. Est-ce que t'as d'autres trucs que tu t'attends ou que t'espères avoir dans la fin?
Non.
Tu penses que Greg y gagne?
Ouais.
Ça veut dire quoi gagner pour Greg ?
Bah pour moi, ça veut dire qu'il devient genre le boss. Vraiment.
Je pense aussi.
Pour moi, c'est vraiment... En fait, il va leur tous leur marcher dessus les uns après les autres. Et je trouve en plus que ça enverrait le bon message, entre guillemets, par rapport à tout ce que la série véhicule, d'une manière générale. C'est vraiment... en fait, il faut que tu montes sur la tête des autres pour finir par arriver
au sommet.
Oui, tu
peux pas gagner dans ce monde si tu deviens pas comme ces gens-là. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc aussi toujours caustique de succession. À la fois, tu peux te dire, si Greg, il gagne... Il réalise un petit peu les valeurs de Logan, à savoir qu'il est parti de pas grand-chose et qu'il s'est hissé jusqu'au sommet. D'un autre côté, c'était le petit-fils d'un milliardaire qui était le frère du boss, tu vois. Genre, il est à l'anniversaire du milliardaire, c'est comme ça qu'il a son job. Genre, vrai, les gens comme Greg, ils sont au truc d'orientation des parcs Waystar que Roman, il est obligé de faire pendant un épisode. Ils vomissent dans leur costume et ils ont pas de carte sortie de prison, tu vois. Ils restent dans la précarité, ils restent dans la Hesse. Parce qu'ils ont pas un grand-père qui habite sur la 5e avenue, dans un penthouse, un immeuble entier, quoi.
Mais il est pas, tu vois, en même temps, tu dis ça, mais tu vois, il a pas fait d'études, et c'est pas parce qu'encore une
mais
fois,
il sait qu'il aura 200 millions un jour.
Bien sûr, tôt ou tard. Mais justement, ça change tout. Mais en fait, en termes de compétences pures par rapport à la boîte, il a pas fait d'études, il sait pas comment ça marche. Et en fait, pour moi, c'est exactement.
Ah oui.
Tu vois, tu disais tout à l'heure, Shiv, elle est pas très brillante et tout, on sait pas trop. Roman, on sait pas non plus quoi. Pour moi, ça serait vraiment. Exactement pareil, quoi. C'est-à-dire juste le mec, il y est allé au culot et il a joué ses cartes à chaque fois au bon moment.
Et il a trahi aussi. Il a poignardé, comme tu dis, il a marché sur la tête des autres, mais activement, parce que Greg, il a un peu cette persona de oh, je ne sais pas, je suis grand et maladroit et tout. Mec, jour 1, on te dit détruit des documents, il est là, je vais faire des bonnes grosses photocopies, mamie, il n'y a pas de problème. Et heureusement qu'il l'a fait pour lui, il a bien fait, même si ça lui met le doigt dans l'engrenage de plus en plus, mais il y va. Joyeusement, en fait, dans cet engrenage. Alors que, on pourrait aussi se dire, mec, chillax, en fait, tu peux faire un job alimentaire toute ta vie, être sympa avec papy Yuan, et à la fin, il va te virer ton héritage, ta part de l'héritage, et tu seras vraiment set for life, tu vois. Tu seras peut-être pas milliardaire, t'auras peut-être pas ton propre hélico, mais tu pourras de temps en temps louer un hélico. Et c'est déjà plus que la plupart des gens, donc tu peux te satisfaire de ça, mais je pense qu'il y a un vrai truc à la fois de corruption, et puis c'est quoi le péché mignon de... L'avarice, c'est ça. T'en veux toujours plus, quoi. Tu vas faire quoi avec tes milliards ? Tu vas les mettre sur ta pile avec tes autres milliards ? Parce que je peux. Mintara, bonsoir ! Bonsoir, tu arrives un peu sur la fin, mais c'est pas grave. Ok, je t'ai fait quelques questions. Rapid fire.
Ouais.
Bon, la première, on l'a... Ah, si. Du coup, on a parlé de... Du coup, la question, c'est Tom ou Greg ? Team Tom ou Team Greg ? Mais il y a peut-être une alternative qui est Team Tom Greg, parce qu'on a dit, on pense que Greg va bien s'en sortir. Est-ce qu'il va bien s'en sortir avec Tom ? Ou est-ce que... Il va trahir Tom.
Il va trahir
Tom. Ce sera sa dernière. Évidemment.
C'est sûr et certain.
Et Tom, il va le regarder en mode.
Eh bah, t'as gagné. Bien joué.
Je suis fier de toi un peu.
Ouais, je t'ai bien groomé comme il fallait.
Comme dit Kendall, you Machiavellian fuck. Ouais, je pense qu'il y aura du respect. Mais à choisir, Team Tom ou Team Greg ?
Non, moi, je préfère Tom quand même.
Moi aussi.
Tout son dos avec. Quand il se prépare à aller en prison, là, c'est tellement. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est à la fois complètement niqué et en même temps.
Ah, mais j'étais trop en empathie.
Ça m'a touché.
J'étais là, mais
ouf,
je suis terrifiée à sa place. Enfin, et en plus, on connaît aussi le système carcéral américain. Mmh. Alors, c'est Tom, hein, c'est un mec blanc, aisé. Il sera peut-être pas dans les pires quartiers, mais c'est quand même la maxi Hesse, quoi. Et puis, il a aucun soutien moral. Et je pense que je vois plus dans Tom l'homme qu'il aurait pu être. S'il avait pas cette part sombre, tu vois, de lui qui est hyper ambitieuse. En fait, il est gentil, il est cool. Je pense qu'il aime Shiv de fou.
Bien sûr.
Il est gentil avec elle, il est empathique, il y a plein de fois où il est là. Moi, Logan, je pense que Shiv, elle a des bonnes idées et tout, tu vois. Il est même ok avec le fait que c'est elle la bosse et que soit lui à côté. Donc je suis là, tu aurais pu être une bonne personne. Donc, Team Tom, toujours. Greg, c'est la pire race, ok. Tu préfères aller au mariage de Shiv en Angleterre ou au mariage de Caroline en Italie ?
En Italie.
Évidemment.
Ouais.
Évidemment. Team Italie.
On mange mieux. Il fait beau. Il y a un grand soleil.
Ça sent la lavande et tout. Les settings dans Succession, vraiment.
Oui.
Ça dégouline de pognon, cette série, c'est trop. Tu préfères passer une soirée avec Logan ou avec Madson ?
Avec Logan.
Avec Logan ?
Ouais.
Ok. Je me suis dit peut-être c'est obvious. Mais en vrai, je me suis dit peut-être Madson, comme il a ce côté très. Européen tech, ça te parlera un peu aussi.
C'est-à-dire que.
Bon, on l'a moins vu aussi.
J'aurais sans doute plein de trucs à raconter à Madson et on aurait sans doute plein de trucs à échanger, mais ça serait. En fait, tu vois, Logan, j'ai envie de connaître son histoire.
Ouais.
Là où Madson, je m'en bats un peu plus les couilles, quoi. C'est juste, ok, t'es, comme t'as dit, un fucking Elon Musk. Pff,
plus talentueux, je pense, oui. Mais pas plus agréable.
Non.
Tu préfères interviewer Kendall ou Roman dans Histoire de mec?
Ah, Roman, bien sûr.
Ah ouais?
Ouais.
Je comprends. Il est...
Pour moi, Roman, il est plus ouvert. Je crois que Kendall, pour moi, Kendall, c'est juste un mur, tu vois. Là où Roman, à mon avis, Roman, il a des sorties en mode vulnérabilité totale.
Bah, il en a plein. Ça rappelait dans le chat, à un moment, il dit qu'on le mettait dans une cage quand il était petit et que peut-être il aimait bien ça. Il était toujours en mode, c'est une vanne ou c'est pas une vanne?
Mais c'est pas une vanne.
C'est pas une vanne.
Non, c'était Connor, il discutait de ça, de ce souvenir-là et tout.
Non, le souvenir, il est arrivé, mais c'est plus la lecture du souvenir. Bah... Roman, il dit, vous étiez des connards de me foutre là-dedans. Connor, il dit, en vrai, t'aimais bien qu'on te foute dedans. Et t'es là...
Bien sûr. Mais toi, pas toi? Pour moi, Roman,
si,
toute son histoire avec sa sexualité et tout.
Je pense que Roman est plus... Donc, Histoire de mec, c'est un podcast masculinité, n'est-ce pas? Et je pense que Roman est plus fucked up dans sa masculinité que... Kendall qui est fucked up. Alors, il y a un truc de lien père-fils, évidemment, qui est très viril, hein, mais il a peut-être moins de choses à dire sur le fait d'être un homme, et je pense qu'il serait en full bullshit, genre oui, le patriarcat, c'est nul et tout, genre, comme il le fait très bien dans cette saison 3. Et enfin, tu veux quel personnage de Succession dans Histoire d'argent?
Ah là là. Donc, Histoire d'argent, pour les gens qui savent pas, c'est un podcast où j'interroge les gens sur leur rapport à l'argent et sur ce qu'ils projettent sur l'argent. C'est-à-dire que si on réfléchit de façon un peu objective, l'argent, c'est juste une monnaie d'échange qui permet de pouvoir s'acheter en échange d'une certaine somme un produit ou des services. Et globalement, c'est...
C'est pas censé être notre valeur dans le monde.
On peut prendre un billet et faire juste... C'est du papier, quoi. Voilà.
Oui.
L'argent
est une construction sociale. Voilà. C'est un outil.
Et donc, effectivement, dans ce podcast, j'essaie d'interroger les gens sur ce qu'ils projettent dessus. Et en fait, on projette plein de choses, tous. Des peurs, des trucs de dégoût, enfin bref, il y a vraiment mille possibilités. Et je crois que dans l'histoire d'argent, moi j'aimerais bien avoir Greg.
Oh,
parce que
comment tu passes de j'ai pas une thune, il y a un moment où Shiv l'envoie prendre un taxi au tout début de la saison 1, il est là, c'est mes derniers 20$, donc est-ce que c'est à moi de payer ou pas, et il peut pas payer le taxi.
Sa mère il veut pas lui filer d'argent parce que obviously elle a l'air d'être fauchée aussi. C'est-à-dire que il y a un vrai truc aussi dans ces familles qui sont potentiellement très riches ou ils n'ont pas forcément d'argent sur leur compte en banque. C'est-à-dire que c'est un vrai truc qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens riches, potentiellement riches, et notamment la mère de Greg, en fait, son père est super riche, mais globalement, ça veut pas dire
qu'il lui paye un salaire à
exactement.
Sa fille. Hein,
donc ça va tomber tôt ou tard, c'est sûr et certain, mais en attendant...
S'il donne pas à toi Greenpeace, ça
et effectivement. Et donc pour moi, j'aimerais bien. Enfin, pour moi, Greg a sans doute la relation la plus intéressante à l'argent dans toute cette histoire parce que ça, il en a pas. Et en fait, plus ça va, plus il en a. Et en fait, ça devient. Enfin, tu vois, il finit par aller sous. Il finit par attaquer Greenpeace pour de l'argent, quoi. Tu vois, t'es là, mais dude,
et même au-delà de ça, il y a plein de petites phrases. Genre, à un moment, je crois que c'est l'épisode du yacht où il est là, oh, c'est du champagne rosé, j'aime pas trop. Et Tom, il lui rappelle régulièrement, il est là, on a pris la confin. Et il est là, un peu en mode, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi d'où on vient aussi, même si je pense que Tom a plus de thunes. Oui. C'est gros avocat du Midwest, je crois, sa famille, un truc comme ça. Sur le chat, il y a Cara Cole qui dit, moi, Logan, je l'approche pas avec un bâton. Et Steel Marty qui dit pareil. Bonjour Crushtats, c'est la grève, c'est pas la grève du stream. Tu arrives à la fin du stream, mais merci de passer à dire coucou. Ouais, je suis pas sûre que j'irai dîner en tête à tête avec Logan parce que j'ai peur de lui, mais honnêtement, Madson n'a pas l'air plus sympa.
Non.
Même s'il aime les 3 P, privacy, pussy, pasta, on est d'accord là-dessus. Du coup, on peut manger des pâtes, mais je sais pas s'il aura très envie de discuter avec moi, je sais pas s'il me trouvera très intéressante, quoi. Et Logan me regardera probablement comme une forme de chewing-gum collé à la roue arrière de sa 3e Porsche de fonction qu'il n'utilise pas. Donc je pense pas qu'on aura une discussion.
Non.
Mais si jamais, à choisir, je prendrai Logan.
Oui, c'est ça, à choisir.
Évidemment. On prend toujours la personne qui a un accent écossais. Est-ce qu'on a fait le tour?
Pas mal, hein.
Est-ce qu'on est ready pour Succession saison 4?
Pas mal également.
Ok, je vais regarder qui on peut aller raid. Est-ce que pendant ce temps, tu veux faire le petit programme de qu'est-ce qu'on va faire sur Succession pendant cette saison?
Eh bien, on se retrouve... Non, je peux le faire, mais on se retrouve tous les mardis des 10 prochaines semaines, des 10 semaines à venir, le mardi soir à 20h, c'est ça, on s'est dit?
Tout à fait.
Pour se retrouver, pour commenter l'épisode de la semaine. Vous pourrez aller, si vous le souhaitez, regarder donc l'épisode soit tout le lundi de la journée, soit le mardi, et nous retrouver le mardi soir. Effectivement, on va spoiler, full spoiler, chaque semaine, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode avant de venir nous voir.
Oui.
Et si je me trompe pas, tu mets ensuite le
podcast le mercredi
et
le replay sur YouTube.
Que tu vas faire des récaps rigolos.
Mais bien sûr, tous les lundis sur Patreon, récaps rigolos de Succession saison 4, ça va être fun. Je vous envoie chez Justin, qui est, je crois, en live pour les manifs spontanés contre la réforme des retraites. Donc, force à lui, j'espère que tout ira bien. Merci Fabrice d'avoir été là. Et ce n'est que le premier volet d'une longue série d'épisodes sur Succession. Merci à vous si vous avez été là. Regardez Succession.
Oui.
À la semaine prochaine.
Des bisous.
Prenez soin de vous. Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de série, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.